Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 12 juin 2011, nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jad Not Dead, et à 17h FMR c'est l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le mag spécial BD que vous attendez tous. On y va mollo.
Précédemment dans le supplément week-end.
Jean-Christophe Menu a démissionné de l'association.
Non mais là il vient de le dire, je veux dire, il y a autre chose derrière.
Bah il est parti le 23 mai dernier parce que l'avocat et le comptable ont été licenciés, parce qu'il aime pas revoir les autres fondateurs d'un collectif fantasmé, on le muselle. Parce qu'il a pas lu le bouquin sur l'association écrit par les autres fondateurs, parce que c'est un artiste incompris et puis parce que c'est la joue rockstar.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport, Ultimatum, Bastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Et bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui c'est du sport aux manettes, bonjour du sport.
Bonjour.
Voilà, donc aujourd'hui nous faisons une émission spéciale sans Dasritch, donc pour lui rendre hommage nous faisons une émission spéciale bande dessinée.
Ouais, on donc, lui mange le pain.
Voilà, c'est ça. Juste avant de lancer la première rubrique de l'émission, juste revenir sur l'interview que nous avions faite de Morgane Charpentier la semaine dernière, qui venait nous parler de l'état de la bande dessinée indépendante à travers la mauvaise passe que traverse les Requins Marteaux, son éditeur. Vous savez que nous sommes en partenariat avec le site actuabd.com, donc il se trouve que l'interview a été reprise par le site actuabd et vous pouvez suivre les commentaires car il y a beaucoup de libraires et de professionnels de la bande dessinée qui réagissent justement à cet état des lieux de la bande dessinée indépendante qui va pas très bien, donc vous pouvez aller sur le site actuabd.com pour lire un petit peu les retours puisque l'affaire n'est pas terminée. Le rédacteur adjoint d'ActuaBD, Didier Passamonique, a écrit également un article en une pour compléter un petit peu les propos de Morgane. Donc voilà, tout ça c'est sur le site actuabd.com. Dus, aujourd'hui il sera question surtout de bande dessinée franco-belge, comics de super-héros, du DC, du Marvel et autres joyeusetés. Tu nous as concocté aussi un programme spécial film et livre.
Ben ouais, parce que on s'est dit qu'on va surtout parler de bande dessinée. Hein, et de films consacrés à la bande dessinée en plus, ta rubrique ciné, à la fin dans la rubrique film à la télé, j'ai décidé de vous choisir quelques films qui vont passer à la télé la semaine à venir, mais qui sont tirés de livres sans images.
Ah, eh oui.
Des vrais livres.
Joli pied né, oui. Ah, ouais. Avec juste l'image sur la couverture.
Ouais. Et encore, des fois.
Alors, si tu te sens prêt de passer le premier sujet, on va peut-être lancer, on va présenter un petit peu le... Attends. On va présenter un petit peu l'interview avant.
Vraiment, je me suis...
Voilà, on va présenter l'interview avant. Donc, il s'agit de Jérémy L'Absolu, un auteur de bande dessinée que j'avais interviewé à Angoulême en début d'année, en début 2011, au Festival d'Angoulême. Et donc, c'est un auteur que nous avions découvert à travers la bande dessinée Metamuta, qui était, une extension de la série Mutafukaz. Donc ça, Metamuta, c'est un petit peu les origines du personnage de Angelino, revisité sous acide. avec un le pitch, ça avait été que c'était un scénario de Lynch mis en image par Clint, pour vous donner un peu l'idée de du truc. Donc c'est un artiste complet. Il a également fait l'album Nana Hux, que j'avais chroniqué aussi sur cette antenne. Donc c'est un, on va dire, une BD un peu déstructurée entre artbook et on va dire expérimentation graphique au trait à la et texturée via Photoshop. Donc c'est un artiste vraiment qui sort des sentiers battus, qui a un parcours assez atypique pour un auteur de bande dessinée, qui vient pas du tout de la bande dessinée à la base, il vient des arts du cirque, il va le dire dans l'interview. Et donc c'est un auteur franchement très intéressant.
Il a l'air d'être prolixe en tout cas, hein.
Ben en fait pour l'instant il a fait que deux bandes dessinées, il a fait que ces deux là, tu vois. Et donc là c'est une série qui est en deux ou trois tomes, je crois qu'il le dit dans l'interview, il le précise. Et voilà, donc il fait des BD assez singulières. Soit on aime, soit on déteste. Hein. C'est assez dur de rentrer là-dedans. Des fois les personnages, c'est pas évident de s'identifier un peu à eux, parce que ils ont des noms compliqués, ils ont des noms bizarres. Voilà, mais c'est en tout cas c'est une production assez singulière qui mérite qu'on s'attarde dessus. Donc voilà, Jérémy L'Absolu rencontré en janvier 2011 à Angoulême.
Jérémy L'Absolu, bonsoir.
Bonsoir.
Décris-nous ton parcours qui t'a amené à publier tes deux albums chez Ankama. Qu'est-ce que tu as fait avant, etc.
Ouais, je dessine depuis très très longtemps, mais avant que me vienne l'idée d'en faire un métier, il s'est passé quand même beaucoup de temps. Et c'est vrai que j'ai fait plein de choses entre-temps. Est-ce qu'on y va dans le menu ou pas, je sais pas, mais donc
dans les détails que tu veux, si t'as été dans les arts plastiques, si t'as été graphiste ou si t'as fait la pub, je sais pas.
D'accord. Non, rien de tout ça. C'était en fait, moi j'ai commencé j'ai fait l'école du cirque, en fait. Je viens vraiment d'un autre monde. Et donc j'ai travaillé quelques années comme ça surtout à l'opéra. C'est pareil, c'est curieux comme ça. C'était un hasard de la vie qui fait que j'ai beaucoup beaucoup travaillé à l'opéra pendant quelques années. Et c'est vraiment qu'après coup que l'idée de dessiner plus, de il y a eu une époque où j'ai quitté la ville. Et j'ai pris une sorte de, je suis devenu une sorte de moine comme ça. Je suis allé dans une ville où je me suis trouvé un petit appartement c'est presque qu'on me payait pour que j'y habite. Hein. J'ai passé mes journées à dessiner, en fait. Ça a commencé comme ça. Et il s'est passé encore 12 ans. À partir de ce premier acte posé comme ça, je devais avoir 26 ans, un truc comme ça. Et il s'est passé des tas de choses. Alors c'était une lente maturation avant que j'envoie mon dernier projet comme ça. J'étais exempt. Il y avait vraiment intellectuellement, il y avait vraiment quelque chose de, une tension terrible entre la réalité et c'était désir profond. Donc avant l'envoi de ce dernier projet à la maison Ankama, et un projet sur lequel Ren est tombé, et puis il m'a appelé pour le dire simplement comme ça, pour me proposer ce projet. Alors j'ai été vraiment stupéfait parce que je connaissais son travail, et qui m'appelle comme ça pour me proposer de me prêter ses personnages et que j'en fasse ce que je voulais sur un tome. Ça a été j'ai dit ok. Ouais, ça c'est d'autant plus plaisant que ces personnages, vraiment ils m'ont posé aucun souci. J'en ai fait tout de suite les miens. C'était vraiment un réel plaisir, ce plaisir comme ça de démarrer en bande dessinée dans une maison d'édition comme ça, de pouvoir en vivre. Ce qui est vraiment comme ça du jour au lendemain, comme ça, une espèce de tu rentres dans vraiment autre chose, avec des peurs, vraiment, évidemment, tu pendant un mois, je me disais, je vais refuser, je vais arrêter, c'est pas possible. J'étais arrivé à une telle extrémité, comme ça. Et puis après, une euphorie de, parce que j'ai rencontré Run, et alors, quand j'ai vu Run arriver, déjà, lui, il était pété de trouille, je sais pas pourquoi. Il s'était fait une image de moi, sans doute, peut-être.
Je te rassure, quand on connaît ton travail, on se fait tous une image de toi un peu bizarre.
Ok, bon. Ouais, il me connaissait vraiment pas. Et j'ai vu arriver ce gars, comme ça, looké à mort, avec ses deux diamants, lunettes de soleil, enveloppantes, comme ça, rose. Il y avait un autre gars avec lui et tout. Je dis, waouh, c'est Run. Et lui, il a dû penser exactement la même chose. Et moi, j'étais habillé un peu de façon assez classique, comme ça. Enfin, bref. J'ai perdu un peu le fil. À partir de cet instant, on a posé les bases de notre relation. En demi-journée, on avait tout calé. Et après, moi, je suis retourné dans ma grotte. Et c'était vraiment. En fait, il savait pas trop ce que je bricolais. Alors, vraiment, Ron, il a un estomac costaud parce que de remettre ses personnages chéris à un gars qui ne connaît pas tant que ça finalement, dont il a vu quelques planches de BD. Il a vraiment découvert les choses par blocs. Et vraiment, il y a deux tiers du bouquin qu'il a découvert au dernier cara. Donc, à part quelques scènes qu'on avait calées pour être synchro, et qui voulait que j'aborde le sujet, moi j'aurais pas abordé toutes les scènes sur la maman de Lino, des choses comme ça pour ceux qui connaissent, oui. Évidemment. C'est des choses que j'aurais pas abordé. Mais après tout le reste, moi, ça a été clair que d'entrée. J'ai axé tout le tome sur Lino et Luna, pour moi c'était vraiment l'évidence, quoi. En lisant ces aventures, il y avait tellement peu d'espace pour l'amour, cette espèce d'amour entre ces deux personnages que ça a été.
Oui, quand tu as repris le projet, en fait, il y avait déjà deux tomes, et la fin du deuxième tome, on s'aperçoit que Lino était tombé amoureux de la mauvaise personne qui était un alien.
Ouais. C'est ça. Alors c'est devenu clair que j'allais tout axer là-dessus. En fait, j'ai fait toute une intro là qui dure un tiers du bouquin juste pour amener la scène où il recroise Luna dans un supermarché, une espèce d'espace froid. J'ai vraiment choisi à dessein cette espèce de froid éclair en néon pour créer une sorte de scène totalement sensuelle, totalement gore. Mais totalement second degré, en fait, où c'est une espèce de revolver qui est entre eux, et tout sauf un revolver, mais et puis c'est ce malin plaisir, moi, j'avais des faux rires comme ça de d'imaginer la réaction de Ren devant ce que je pouvais faire, il y a même au départ, comme c'est vrai que j'avais fait un dessin avec un Lino très mature. Alors que c'est un petit bonhomme tout frêle, j'avais fait un dessin de Lino. Il avait vu un dessin de Lino très très mature, nu avec Luna, nu aussi. Et d'un coup, il a eu une petite appréhension parce qu'il, pour lui, dans sa tête, ce personnage était vierge. Il n'avait jamais eu d'expérience. Alors au final, je lui dis non, je vais y aller doucement et tout. Et au final, j'ai quand même, on a glissé tout. Mais bon, il m'a rien dit là-dessus, jamais rien dit, quoi. Il a accepté tel quel. J'y suis allé doucement comme ça. Il se réveille au détour d'un chapitre totalement, c'était imprévisible. Il vient de se faire boxer par un des catcheurs qui est devenu boxeur dans mon histoire. Donc, c'est
Et donc graphiquement, tu as un style très particulier. Toi, tu viens pas du tout de la bande dessinée à la base. Quelles sont tes références en matière de bande dessinée? Moi, personnellement, j'ai tout de suite pensé à Taiyo Matsumoto quand j'ai vu tes planches.
Alors, ouais.
Amère Béton.
Oui, non, je connais. J'ai connu trop tard pour influencer en quoi que ce soit. Mais non, mais ouais, j'ai du mal à parler de mes influences. Voilà, sont très lointaines. Mais dans le trait, ouais, j'ai mes BD d'enfants qui m'ont vraiment influencé, peut-être donné ce goût de l'éthéré, du non-sens, ou en tout cas juste poétique. C'est en lisant vers 5-6 ans, je lisais Fmur et Fred. Ça, je sais que ça m'a marqué, ces BD. Il y avait Valérian aussi. Bon, ça, c'est vraiment les BD dinosaures de mon enfance. Après, je suis passé à... J'ai recollé à la BD avec un Blutch dans début 90, à un moment où ça m'intéressait moins, on va dire beaucoup moins. La BD m'intéressait beaucoup moins. Et après, au niveau vraiment du trait, c'est vraiment peut-être des dessinateurs quand même plus anciens qui m'ont marqué, comme j'ai oublié le nom de l'auteur, mais celui qui faisait Little Nemo,
Winsor McKay.
Winsor McKay, merci. Avec ses traits très très épurés comme ça, que je recherche quelque part, mais j'ai mis du temps à m'apercevoir que c'est ça que j'aimais. Moi, j'avais un trait beaucoup plus crayonneux, beaucoup plus noir, beaucoup plus chargé, sans me douter qu'en fait ce trait beaucoup plus aérien était vraiment ce que j'aimais. C'est juste que je faisais pas le lien entre mes propres dessins et d'un coup d'aller le tirer vers ce que j'avais vraiment envie. Bon, je patouille toujours dans le gris. J'ai tendance à charger quand même en texture. Encore.
Alors ce style anticonventionnel justement, est-ce que tu l'as proposé directement en Gamma et est-ce que tu as essayé avant à d'autres éditeurs, et est-ce que tu penses sincèrement que si tu n'étais pas tombé sur ce directeur de collection là, on t'aurait pas dirigé plutôt vers la littérature un peu plus, enfin pas BD quoi.
Donc avec Run, ouais, c'est l'évidence. D'un coup, j'ai croisé. C'est déjà dans ce que j'avais envoyé, la proposition que j'avais envoyée à sa maison d'édition. Il y avait déjà 100 puissances. C'était plus léger, mais c'est vrai que Metamuta s'est sorti beaucoup plus noir, beaucoup plus brut que ce que j'avais fait. Maintenant, avec Run, c'est réellement la rencontre. J'avais évoqué cette longue période de désert avant d'être édité. C'est vraiment presque la rencontre avec quelqu'un qui est quasiment une génération, qui a les mêmes références graphiques, auquel je ne vais pas faire peur. Et d'un coup, il va avoir envie de passer, malgré ça, sachant le danger, il va y aller. Et parce que c'était la prise de risque était certaine. Moi, je pense certainement un public, enfin des gens qui attendent ce genre de boulot comme ça. Il a presque fallu que j'attende quelqu'un de ma génération qui enfin soit directeur de collection, enfin le concours de circonstances vraiment qui. Un petit peu qui me dépasse un peu. Mais...
Et alors maintenant, est-ce que tu te définirais comme un dessinateur de bande dessinée avec beaucoup de références et un style à part, ou est-ce que tu te définirais plutôt comme un artiste qui en ce moment explore le médium bande dessinée mais qui peut revenir à tout moment à d'autres formes d'expression?
Non, moi vraiment, je me vois à travers la bande dessinée, a toujours été mon médium en fait, ouais. Maintenant, c'est vrai que j'aurais d'autres envies, mais toujours étroitement liées. J'aimerais bien aborder la création d'univers pur, parce que c'est une chose que je sens. Je me sens bien là-dedans. Pas forcément la narration, c'est quelque chose avec lequel je lutte. Je sais que les idées sont là. C'est vraiment, c'est souvent une lutte, bon, qui devient de plus en plus. Ouais, c'est toujours acrobatique, c'est clair.
Alors, décris-nous ton processus créatif pour les graphismes. Alors, est-ce que ce sont des textures qui guident ton caractère design ou est-ce que tu trouves une technique visuelle adaptée à chaque fois en fonction des personnalités de tes personnages ?
J'ai pas compris la question.
Est-ce que ce sont les textures qui guident la création de tes personnages ou est-ce que ce sont les personnages qui vont justement appeler des textures différentes ?
C'est lié, ouais. Bon, d'accord. Ouais, je vois que ça t'a marqué dans ce que je fais. C'est vraiment lié. D'abord, j'ai une recherche au crayon, toute bête. Je fais des croquis. Et puis, c'est vrai qu'une fois dans l'ordi, je vais commencer à travailler. En fait, je ne m'arrête pas de dessiner, quoi. C'est pas parce que c'est un ordi que je dessine plus. Bon, c'est un peu idiot parce qu'il y a vraiment des gens qui font des BD entièrement à l'ordi. Mais je vais commencer à placer des textures, à choisir une texture pour un personnage. Et d'un coup, ça va. Je vais continuer à le travailler. Bon, c'est surtout les personnages, c'est surtout les chevelures qui deviennent ces temps-ci assez dantesques. Le personnage avec des chevelures.
Oui, des fois, il y a même des cheveux qui sont en creux, en fait, puisqu'il y a un personnage qui a une longue chevelure, mais c'est comme si elle n'avait pas de cheveux, tu le traites en vide.
Ouais, ça arrive, ouais. C'est selon les planches, il y a des. Mais c'est vrai que je les dessine réellement une fois à l'ordi en plaçant cette texture. Je découvre des choses. C'est vrai qu'il y a un vrai travail après le dessin au crayon. Il y a vraiment un travail de production à l'ordi où je fais ma mise en scène à l'ordi. Je réexplore ma narration, je vais l'enrichir, je vais essayer d'aller plus loin. Il y a un jeu de va-et-vient constant entre ce que je peux faire au crayon et pour dire la plupart des crayonnés je les fais à l'extérieur, dehors. C'est vraiment une sorte d'habitude quasi. Je me sens mieux à l'extérieur. Avec mon petit...
Même en ce moment.
Ah ouais. Ça serait... Ici, je pourrais dessiner, par exemple, élaborer des scènes. Et après, je vais faire ma mise en scène. Et la mise au propre se fait chez moi, parce qu'il faut quand même du calme, être bien posé pour faire quelque chose de précis. Mais tous les premiers crayonnés, je les fais généralement à l'extérieur. Bon, ça m'arrive aussi d'en faire chez moi, mais.
Alors justement, tu travailles beaucoup les textures, tu fais des mix de techniques, etc. Curieusement, à part quelques planches, t'interdis d'utiliser la couleur. Pourquoi?
je me sens très mal à l'aise avec la couleur. C'est vraiment un truc qui me. Ouais, c'est. Alors je sens à quel point les gens ils aiment ça maintenant. Les quelques planches en couleur, quand on m'a proposé d'introduire une quinzaine de planches en couleur dans Nanahux, j'y suis allé, mais c'est vrai que c'est toujours une appréhension. C'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Et bon voilà, je sais que prochain tome je vais m'y coller un peu plus sérieusement, et puis je vais faire. Je vais arriver à quelque chose comme ça. Là, j'ai des petits retours en dédicace. Là, il y a quelqu'un qui m'a montré une des planches en couleur. J'ai fait plein d'essais, évidemment. Tout qu'à faire. Un essai par page. Ouais, c'est. Et elle m'a montré une page. J'aurais pas cru quoi que ça marche comme ça, avec des couleurs quand même assez. Même quand je mets de la couleur, je ne cesse de l'éteindre, d'y mettre un filtre pour atténuer. La couverture, il a fallu que je me tienne la main pour faire péter ce rouge comme ça. Ça a été une sorte de victoire.
Une torture.
Ouais, non, pas une torture, une victoire sur moi-même. Je crois que je vois pas les couleurs comme il faudrait les voir. Pour moi, c'est anti-narratif au possible. J'ai du mal avec les BD en couleurs. Je suis en adoration peut-être un petit peu forte sur le noir et blanc. Il y a des gens qui font des travaux en couleurs. Que j'estime énormément, qui sont fabuleux, mais j'ai vraiment du mal, quoi.
Alors tu nous disais que ton travail à ordinateur influence ta narration, mais à la base il faut bien qu'il y ait un scénario. Tes scénarios sont très 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 particuliers. Tu peux nous dire comment ton cerveau fonctionne, c'est quoi le processus là-dedans là ?
Je sais pas si je dois parler de ça parce que.
Tu fais ce que tu veux.
Ouais. Donc je pars sur des idées, les premières idées. Il y a les premières idées, puis ensuite je fais une première mise en place comme ça. les choses se précisent et les idées deviennent plus fortes. D'un coup, je réalise du poids des différents éléments qui vont rentrer en conflit, je retravaille dessus. Je suis précis, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que je sais très bien où je veux en venir, mais c'est presque l'ordre de une sorte de subconscient qui sait très bien où il va. Et donc, je mets en place différentes scènes comme ça. Après, il faut enrichir cette idée de base. Elle peut pas vivre seule. C'est comme l'art du roman, c'est vraiment l'art du détour. Si les romanciers réduisaient leur narration à une sorte de résumé, il y aurait quelques pages. Après, c'est vraiment l'art de prendre le chemin de traverse, de vagabonder, et tout en servant l'histoire. Et voilà, c'est un petit peu ça. D'un coup, d'autres personnages émergent. Tout ça pour dire que, en fait, tout le long du processus, je reste totalement perméable à tout ce qui m'arrive. Je vais faire une série de photos, par exemple, pendant un périple, et d'un coup, je vais imaginer une scène dedans. Et souvent, quand je prends des photos, j'en prends plusieurs, je me dis, tiens, ça peut toujours se transformer en décor. Il peut apparaître des choses comme ça. Et pareil, j'entends quelque chose à la radio où je me réveille le matin avec une idée et ça, je vais toujours trouver de la place pour mettre ça. Alors, le danger, c'est évidemment de devenir un peu complexe à suivre, mais bon, c'est toujours des risques, quoi. En même temps, c'est clair que avec mon trait, ma façon de dessiner, je m'adresse pas forcément à un grand public d'entrée, quoi. Donc je sers aussi des. Je vais pas forcément faire une narration limpide et accessible. C'est vrai que c'est une narration qui demande un peu d'effort. J'essaye le plus possible d'être fluide et que ce soit compréhensible. Et je prends pas un malin plaisir à perdre les gens. Hein. Au contraire, mais c'est comme. C'est comme un certain groupe. Il y a des groupes, on sait que c'est des groupes de rock. Tu sais que c'est pour toi. En même temps, il y a quelque chose qui rappeux quand même. Tu les abordes pas d'entrée, quoi. Il faut une réécoute. C'est vrai que la BD, est-ce qu'elle se relie, je sais pas. C'est vrai que la musique se réécoute et tu rentres de plus en plus profondément. Les choses deviennent, ce qui était incompréhensible deviennent d'un coup plus claires. Moi, c'est vrai que je suis quand même vachement habitué, par exemple, à des auteurs japonais qui sont très très narratifs et qui font des narrations très complexes. Moi, à la limite, je suis un petit joueur à côté, et à des univers très très complexes, assez référencés aussi. Et il y a des fois, j'ai envie de trucs faciles. Hein, je suis comme tout le monde. Et puis des fois, j'aime bien. Moi, il y a des animes. Tu les regardes, tu peux pas les comprendre une fois, quoi. Je pense à une de mes grandes baffes. Ça s'appelle Funiculi. Ça a été en animation. C'était une grande baffe. Mais la première fois que tu le vois, déjà, au bout de 5 minutes, tu coupes le japonais, tu le mets en français pour suivre quelque chose. Et le jour où tu le remates avec en VO maintenant, et tu vois qu'il n'y a pas un seul plan qui soit pas important. Il y a un avion qui passe dans le ciel, il veut dire quelque chose. Hein. Il évoque le frère du personnage qui est parti aux États-Unis. Il n'y a pas un plan qui ne sert à rien. Ça devient fabuleux, quoi, mais il faut le voir deux fois. Donc je rentre peut-être dans cette catégorie de travaux, quoi.
Je t'avais dit la version soft tout à l'heure, mais là je te sors la version rock'n'roll, hein, donc ça me fait. Je veux pas trop te faire de peine, mais je te pose la question quand même. J'y vais, Franco. Quand j'ai lu ta BD, je me suis dit ouais, c'est génial, et je savais pas si c'était pas en fait du foutage de gueule intégral. Donc je te pose la question. est-ce que justement des systèmes de narration aussi tarabiscotés qui cachent quand même un pitch qui est très basique en fait dans ton album? Est-ce que ça sert pas finalement à masquer un petit peu une idée à la base qui est qui
qui tient pas sur un ticket de métro, mais qui est tellement basique que tu vas prendre des chemins de travers pour masquer ça, en fait.
Waouh, c'est dur. Je plaide coupable. Non. En fait, pour tout dire, sur ce projet-là, c'est l'idée importante, c'est pas de faire un scénario de fou avec des intrigues de fou. Vraiment, ce qui est important, c'est la relation des personnages avec ces crânes. Ces crânes qui commencent à devenir présents, qui vont être de plus en plus présents. Donc, ouais, tu m'as posé vraiment une question avant. C'est un plaquage de rugby qui me. Évidemment, ça m'a. Ouais, je suis comme un rat pris dans l'angle d'une pièce. En fait, il y a ces crânes. Qu'est-ce qui représente, en fait? C'est ça l'important, en fait. C'est des crânes, mais c'est quoi encore? C'est nos ancêtres. Et puis pour faire juste et court, c'est nous, parce que ça se passe dans un futur plus ou moins proche. Je pense que c'est nos crânes, c'est nous. C'est notre société qui est représentée à travers ces crânes. Et très nettement, là, Nana Hux, qui est un des crânes, hein, apparemment assez maléfique. Enfin, en tout cas, je le présente comme infréquentable. C'est une vieille pensée humaine, en fait. C'est une vieille idée, une idée qui est partie à notre 20e siècle, un siècle passé. C'est une vieille idée de l'humanité. Moi, à travers ça, moi, ce qui m'effraie dans le monde, c'est qu'on vit encore sur des archaïsmes qui ont plusieurs millénaires, en fait. On a beau être civilisé, nous, dans notre petite sphère intime, on est très gentil, très aimable, mais on dépend comme d'une sphère plus large, d'un échange de commerce, où vraiment c'est pas la tendresse fabuleuse. Hein. Je vois notre relation aux objets, au matériel, c'est vraiment quelque chose d'assez cracra, quoi, par rapport au monde. Et franchement, on entend des gens, alors ils ont un langage très policé, très très civilisé, mais quand on traduit, c'est que du cannibalisme. Hein. Ces crânes dans cette BD, c'est ça, c'est toute cette pensée archaïque, ces vieux penchants. On va voir qu'ils vont mener le jeu. Du coup, c'est survivant à un apocalypse, hein, qui est facile à deviner. Hein. C'est si on a raté la marche, là on l'a raté. Elle est symbolisée par la montée des eaux, mais ça c'est purement à ce niveau-là, ouais, ça pourrait être gadget, je m'en fiche complètement, c'est totalement irréaliste. D'ailleurs, je suis allé vérifier jusqu'à où les eaux pouvaient monter. je rassure les gens, Nîmes ne sera pas englouti, Montpellier non plus. Mais je trouvais ça tellement marrant de transformer Montpellier en île comme ça, isolée du continent. Il y a un peu d'humour là-dedans. C'est ça qui est important dans cette narration. Après, si je me plante un peu, si je suis pas virtuose dans la narration, dans l'intrigue. Bon, tant pis, mais ce qui va être important, c'est vraiment que ça va apparaître et qu'on va voir cette société qui est totalement embarrassée. C'est une métaphore, puisque les crânes, c'est nous, mais en même temps, c'est les survivants, c'est nous aussi, on va s'identifier à eux. Puisqu'on vit de génération en génération, on vit la même chose. On vit sur des archaïsmes et des archétypes de pensée dont on a beaucoup de mal à se défaire. Déjà, pour simplement s'intégrer à cette société, on est obligé de jouer le jeu. On le joue plus ou moins, ou on essaye de l'éviter, comme moi, en errant comme ça, et en faisant de la BD. C'est quand même quelque chose de... C'est une fuite, hein, oui, bien sûr. Se réfugier dans un petit carré blanc, une fuite, et en même temps qui se transforme on devient très très vite observateur. Enfin, c'est deux choses parallèles, mais je mélange un peu tout là. Et moi j'ai très jeune, j'étais observateur de, je me sentais pas totalement présent. Il a fallu du temps que je prenne une vraie présence, comme une sorte de fantôme, de ghost. J'ai accumulé assez d'énergie d'un coup pour avoir une vie sociale, avoir une vie, comprendre les règles du jeu. Donc j'en reviens au sujet de cette fameuse bande dessinée, Nanahux. Et voilà, cette relation entre ces survivants, et puis toujours tenter, la tentation toujours de reprendre les vieilles idées dégoûtantes, quoi, les vieux vices du monde, quoi. Alors que le monde est finalement, c'est tellement écroulé qu'on pourrait réinventer quelque chose. En même temps, on voit bien que ça repart dans des conflits et des choses pas nettes, mais ça repart là-dedans parce qu'ils sont nourris, ils se nourrissent de ces crânes. Voilà. C'est simple et pas évident à mettre en place. Alors le côté alambiqué de mes narrations, là pour le coup, je plaide totalement coupable. Je suis incapable de faire simple. Donc voilà.
Justement, le côté alambiqué de ta série, le graphisme qui est exigeant et la narration, visiblement, soit on adhère, soit on supporte pas. Est-ce que ça s'explique pas plutôt est-ce que ça ne se justifie pas plutôt dans un one shot plutôt que dans une série? Alors après, t'avais certainement beaucoup de choses à raconter pour soi dans un one shot, mais imagine la tête de ton éditeur qui édite une BD, c'est un ovni et qui doit s'enquiller 4 tomes après. Je sais pas combien de tomes tu as prévu. T'as pas pensé à le faire en un one shot?
3. Mais non, ça m'est pas venu à l'idée. Mais tu sais, moi, dans ma tête, je fais de la BD totalement normale et accessible. C'est ça, tu serais dans le faux de croire que je suis totalement conscient de ce que je fais. Que je pense que paradoxalement, il y a pas mal de gens qui sont super contents de qu'il y ait un deuxième tome. J'ai déjà eu des échos. Il y a un deuxième tome, il y aura un troisième qui s'annonce. Et puis,
justement, quels sont les retours que tu as eus à travers les premières dédicaces que tu as faites ici à Angoulême?
Oh non, c'est léger là, c'est encore trop tôt. C'est pas forcément que des gens qui l'avaient lu. Ceux qui l'ont lu, je suis ravi. Ils sortent de la lecture avec un petit stress. Et c'est comme
stress.
Un petit stress, ouais. Et c'est intéressant, ouais. Les retours sont super intéressants. Il y a vraiment des choses auxquelles j'avais pas appuyé dessus sur la narration, et en fait, c'est sorti très clairement. L'histoire des clans, des rivalités. Donc du coup, finalement, j'ai vraiment affaire à un lectorat super intelligent.
En même temps, tu triches un peu parce que tu mets des indications à la fin de l'album quand même en expliquant. Alors il y a les crâneurs, il y a les gens qui aura ce rapport là, il y a cette caste là. Tu donnes une piste quand même à la fin.
Une piste. Oui, mais ça, j'avais pas envie de le développer dans la narration même. Ça aurait été fastidieux, ça aurait été. Je préfère rentrer cash dans l'histoire. Ouais, j'ai conscience que c'est quand même, j'ai conscience de tout ça. Donc le petit guide de la fin, c'est pour approfondir. C'est vrai que ça donne des éclaircissements du coup.
La réaction que j'ai eue quand j'ai vu le guide à la fin, je me suis dit mais tout ça se tient en fait. Ah d'accord.
Ouais, et tu vois, j'ai quand même eu le culot de le mettre à la fin, parce que l'idée a effleuré certains que je le mette devant, tellement ils avaient peur. Et je me dis, non, à la fin c'est très bien, je veux dire, il faut arrêter, soyons sérieux. Les gens qui achètent mon bouquin, ils ont forcément un chemin pour arriver là. Je veux dire, tu sors pas de, je dirais pas de nom, mais t'es pas simplement consommateur de BD grand public, très grand public, et d'un coup de tomber par hasard, ça peut arriver, mais bon. Mais même si tu y vas, c'est que t'as envie d'y aller. Donc il y a ça, c'est un acquis. En plus, vous avez vu tous des films, j'espère. Je veux dire, je serais pas le premier à faire des narrations un petit peu.
Lynchienne.
Ah, voilà. Je veux dire, je suis quand même bien plus clair et compréhensible qu'un Lynch. Et Lynch, il a quand même public. Je ne vais pas le dire, mais moi j'en ai vu. Je pense qu'il y a plein de lecteurs qui ont des lectures bien plus pointues que mon album. Donc voilà quoi, c'est tranquillou en fait. Non, ouais, c'est...
Ta BD tranquillou, ben on va terminer là-dessus en fait. merci Jérémy.
Ben merci à toi.
Voilà, c'était l'interview de Jérémy l'Absolu. Pour ma part, c'était un grand moment puisque tu sens que le mec était, il avait quelque chose à raconter et le fait qu'il ait un univers si singulier que ça l'encourageait justement parce que tu sens qu'il a quelque chose à dire. Alors après, c'est pas quelqu'un qui a le verbe facile, mais une fois qu'il est pris dans le truc, ça va, il arrive à quand même témoigner de façon intéressante sur son propre travail, donc en plus c'est lié associé à son parcours atypique, donc assez une interview qui sortait un peu des sentiers battus, assez intéressante.
Oui, non mais bon, on sent tout de suite que bon bah il est pas très à l'aise, que il est peut-être un peu timide, qu'il a pas l'habitude de se faire interviewer comme ça quoi.
Sa première interview radio en plus.
Ouais, non mais sur avec des questions bien pointues, bien dirigées comme ça, c'est il n'a pas l'habitude, ça c'est clair. Mais enfin bon, c'est quand même néanmoins très intéressant, puis bon, on découvre quand même un sacré personnage.
Voilà, donc en plus
il faut dire que ce qui sort. Bon, lui, quand il dit que c'est accessible à tous.
Oui, voilà, bon, mais après, comme il dit, quand tu acceptes de feuilleter son album et de te plonger dedans pour le lire, c'est vrai que c'est quelque part, tu es prêt à aller dans cet univers-là. Donc, on va juste te rappeler les références de ces deux bouquins qui sont parus aujourd'hui. Donc, c'est Metamuta. Alors, les deux sont sortis chez Ankama. Metamuta, c'est une version un peu dérivée de l'univers de Muta Fukas de la bande dessinée de Run. Et son deuxième album, c'était donc Nanahux, tome 1, donc le premier tome d'une série en 3 tomes. Une série post-apocalyptique, voilà. On entame avec les comics ou on continue est-ce que tu veux faire le parallèle avec les comics quand je vais parler d'X-Men ou est-ce qu'on continue vers Ankama ou
on va continuer sur Ankama. Alors si t'as du Ankama, il y a pas de problème. On continue sur Ankama. Allez.
Allez, alors on va continuer sur.
Et alors je voulais te poser une question justement à propos d'Ankama, hein, parce que on a reçu un disque d'Ankama Musique. Est-ce qu'il y a un rapport?
Oui, tout à fait.
Ah, d'accord. Okay.
Voilà. Je savais même pas qu'ils avaient. Je savais que ça s'était monté, mais j'avais pas vu la couleur de la musique qu'ils produisaient. Donc, ça
d'accord. Ok. Bah, si tu veux, je peux essayer de chercher le morceau et puis voilà quoi. On va voir.
Eh ben, si tu veux. D'accord. Alors, on parle à présent des yokai, puisque j'avais déjà parlé du tome 1 de l'Encyclopédia Diabolica de Christophe Kurita. C'est un auteur franco-japonais qui vit et travaille à Toulouse, au Japon. L'Encyclopédia Diabolica, c'est une fausse encyclopédie de yokai, puisque l'idée de base était partie d'une conversation qu'il avait eue avec le mangaka Katsuhiro Otomo, qui était le créateur d'Akira, qui lui a demandé « Est-ce qu'en France, il y a des yokai ?» Donc Christophe Kurita, lui, non. Mais cette idée a germé dans son esprit et il s'est dit « Qu'est-ce qui se passerait, comment il serait si la France avait donc des yokai ? Alors, les yokai, ce sont des créatures du folklore japonais, une culture qui est animiste, et qui sont des petites créatures qui vont torturer, narguer, amuser, berner les humains, qui sont de toute façon, qui représentent symboliquement les tentations, le côté, le diptyque dangerosité et bienveillance de la nature, tout simplement. Donc là, on retrouve justement ce qui fait le sel des yokai. Donc ils sont malfaisants, coquins, joueurs, fourbes, donneurs de leçons ou même en manque d'affection. Donc on retrouve le Tour de France du professeur Lafayette qui nous invite à le suivre à travers le bestiaire de la culture animiste japonaise qui se confronte à notre folklore cocorico. Alors, c'est un Tour de France un peu particulier puisque ce sont des yokai qui s'intègrent parfaitement dans le paysage et le folklore français. Donc on a les falaises bretonnes, on a la forêt des Ardennes, on a les Pyrénées. Évidemment, l'auteur s'est amusé à imaginer des créatures japonaises qui s'intègrent dans notre nature. Oui, du sport qui fait mumuse avec le CD à côté. Donc Deuxième tome, Paris oblige, puisque Paris va parler plus à un plus grand nombre, donc on a pas moins de 4 chapitres consacrés à Paris, donc 3 à Paris et 1 à Versailles. Et donc cette fois-ci, on a les incendies, en dehors de Paris, on a les incendies du Var, on a l'aigle noir du Pays Basque, d'ailleurs c'est marrant parce que il aide les contrebandiers à faire passer des produits à travers la frontière, et on a aussi le monde de garde des alpinistes de Chamonix. Donc voilà, donc c'est à peu près, c'est rigolo. On pourrait penser que c'est un voyage au pays des clichés, mais pas du tout. En fait, c'est un parcours un peu franchouillard où l'auteur joue justement avec les coutumes de notre pays de l'Hexagone. Voilà, donc c'est un peu un jeu du chat et de la souris entre les humains et les yokai. Certains yokai sont plus malfaisants que d'autres, d'autres sont un peu les victimes, mais sont toujours plus forts que les humains. Donc ça, c'est toujours des règles à ne pas oublier. Le trait est super épais. Malgré tout, c'est quand même assez chargé. Et là, par contre, il est tempéré par une colorisation plus mainstream qui fait passer la pilule d'histoire quand même parfois un petit peu glauque, avec toujours un univers un peu bizarroïde. Donc c'est pas la bande dessinée de l'année, mais c'est une série qui est tout à fait agréable à lire, amusante, sachant que l'auteur essaie de ponctuer chaque chapitre par un petit dessin humoristique qui clôt voilà chaque chapitre en un petit dessin en plus en noir et blanc. Donc voilà, c'est ça, va vous amuser. C'est vite lu, mais voilà, c'est moi je trouve c'est assez agréable, c'est sympathique. Voilà, l'Encyclopédia Diabolica, c'est le tome 2, et c'est par Christophe Kurita. Ensuite, on enchaîne avec deuxième BD, alors ça c'est dans un autre genre, mais tout à fait différent, ça s'appelle Love. Love comme amour, et d'ailleurs je le passe à du sport parce que tu vas voir, c'est une grosse claque graphique. Donc Love, ça suit, donc le tome 1, c'est consacré au tigre, donc c'est une série en 2 tomes, et c'est ça raconte la chasse qui s'annonçait facile et vite expédiée d'un tigre qui se transforme en longue traque à travers la jungle et son bestiaire hétérogène. Alors s'il est rapide et puissant, le tigre doit s'extirper de tous les pièges tendus par Dame Nature et se frayer un chemin parmi les crocodiles, les macaques, les panthères et les éléphants. Donc voilà, c'est une longue chasse à travers l'album en entier. À la fin là, du sport, il est en train de bloquer sur les aquarelles, les dessins préparatoires. On voit quand même que c'est un mec, le dessinateur, qui sait dessiner les animaux. Et donc c'est une histoire sans parole.
Ouais, parce qu'il vaut mieux, parce que bon, c'est une histoire où il n'y a que des animaux.
Voilà.
Hein, et c'est juste sur la fin, les deux dernières pages, où il y a un humain. Un seul.
Voilà, qui... C'est pas bien ce qui lui arrive d'ailleurs à l'humain.
Ouais, non, mais bon, ouais, ok. Ouais.
Voilà. Donc, c'est pas du tout de l'animal anthropomorphique à la Disney, c'est plutôt du dessin assez réaliste. Moi, ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est que même si c'est colorisé numériquement, la couleur ne vient pas atténuer le côté nerveux du crayonné, puisqu'on voit encore Voilà, on voit que c'est du dessin nerveux, et franchement, arriver à faire passer une histoire avec juste un tigre et puis des animaux sans parole, et malgré tout que tu arrives à comprendre quel animal fait quoi, où ils sont situés les uns par rapport aux autres, et puis en plus il y a une progression, puisque à travers la jungle, ce ne sont jamais les mêmes paysages. On voit à un moment donné qu'il va au pied d'une chute d'eau, ensuite il va aller dans les arbres, après il va aller dans un lac... infesté de crocodiles, etc. Donc là, c'est vrai qu'il y a une progression, et franchement, ce qui frappe, c'est surtout la claque graphique, quoi. C'est pour ceux qui aiment les animaux, ceux qui sont adeptes de dark book ou de beaux dessins d'animaux et de dessins d'observation, c'est vraiment super, assez impressionnant. Bon, ça se lit vite parce qu'il n'y a pas de texte, mais voilà, ça impressionne. Tu peux le relire en plus après, une fois que tu connais l'histoire, tu peux regarder comment sont faits les animaux, il n'y a pas une once de défaut de perspective, tout ça c'est nickel, il n'y a même pas à chipoter, donc voilà, c'est du travail super efficace. Donc je ne comprends pas pourquoi ils l'ont appelé Love, mais...
Si, parce que si tu lis le petit texte qu'il y a en page de garde, là, quoi, tu comprends un petit peu mieux.
Oui, c'est une citation, c'est ça?
Ouais, enfin, c'est pas une citation, parce qu'il n'y a pas de nom d'auteur, mais bon, dans le règne animal, les bêtes ne s'aiment pas, mais ne se détestent pas non plus. L'amour et la haine forment un tout universel, un ensemble suprême qu'on pourrait appeler le divin ou encore l'amour. L'amour que l'homme n'atteindra jamais.
Voilà, merci pour la réponse. Voilà, donc moi ça m'a rappelé, c'est à la frontière entre les documentaires animaliers de la Bible.
Ouais, non, mais c'est le genre d'illustration qui pourrait être, enfin, c'est le genre de dessin qui pourrait très bien illustrer un documentaire animalier, un bouquin sur les animaux, sans problème, hein, parce que bon, c'est hyper réaliste et vachement bien rendu, comme tu en as parlé avant. Donc, de ce côté-là, bon, bah, c'est vraiment, c'est, comment on dirait dans le temps, de la belle ouvrage.
Tout à fait, nous allons terminer là-dessus. Donc, il s'agit de Love, le tome 1, le titré Le Tigre. Donc, c'est une série en deux tomes. Au scénario, c'est Frédéric Brémaud et au dessin, c'est Federico Bertolucci chez Ankama. Et dernier tome, enfin, dernier album que nous chroniquons aujourd'hui d'Ankama, c'est, alors, c'est pas vraiment Ankama, c'est Café Salink. Allez, c'est du gros pavé aujourd'hui, tiens, oula, en matière de graphisme, tiens, fais-toi plaisir.
Oula. Voilà.
Donc c'est le tome 5 de l'artbook de la communauté Café Salé. Donc c'est une communauté de graphistes qui est la communauté numéro 1. C'est un site, cafésalé.net, qui héberge donc des graphistes de tout poil, des auteurs de BD, des directeurs artistiques, des graphistes, des illustrateurs de tout bord, dans un site, un forum, voilà, un site qui appelle à des galeries où les gens se montrent leurs travaux et se donnent mutuellement des avis. Donc c'est une communauté qui organise également des expos, des workshops pour, où chaque graphiste débutant ou confirmé peut s'inscrire pour suivre des cours de professionnels de l'illustration, puisque justement parmi ceux qui donnent des cours, il y a Black Frog qu'on avait interviewé en Angoulême l'année dernière avec Xavier, et donc ce bouquin regroupe 174 auteurs de tous bords dans un artbook qui finalement témoigne de la création graphique francophone actuelle. Alors on a c'est une communauté Café Salé.net qui regroupe 20 000 membres de tout horizon, donc c'est quand même pas mal. Et c'est cette communauté qui est à l'origine du bouquin Magnitude 9, qui est un recueil d'illustrations sur la catastrophe le tsunami qui a ravagé le Japon il y a quelques mois. Et donc l'intégralité des recettes engendrées par ce bouquin ira à une association caritative pour venir en aide aux sinistrés japonais. Donc ça c'est la communauté qui est derrière ça. Et donc cet artbook, alors vous avez toutes les ambiances. Alors c'est divisé en trois chapitres, donc vous avez création de décors, création de personnages et un dernier chapitre qui est divers. Et vous avez, à travers ces grands chapitres, vous avez plusieurs tendances. Alors, vous avez la tendance heroic fantasy, science-fiction, plutôt orienté jeunesse, plutôt orienté vers Dame Nature, etc. Dans les personnages, vous avez du rendu plutôt crayonné, du rendu artistique, peinture traditionnelle. Vous avez du numérique. Alors, c'est classé par technique, par univers. Alors ça peut convenir à la fois aux fans de bande dessinée, puisque vous avez aussi des auteurs de BD qui sont là-dedans, ou aussi aux amateurs d'artbook avec du sport est en train de regarder une illustration d'Hubert de l'Artigue. Oui, ce n'est pas une photo, c'est bien de la peinture.
Non, c'est hallucinant là.
Ouais, c'est un mec qui travaille à l'aérographe, c'est juste hallucinant le travail qu'il fait. Voilà, c'est pour les amateurs de beaux livres ou d'illustration, ou même pour les professionnels du graphisme. Donc c'est un bouquin recommandé. Pas vraiment très cher pour de l'artbook. Donc il s'agit du tome 5. Vous pouvez de toute façon vous faire une idée en allant sur cafésalé.net. Donc c'est cfsl.net. Et voilà, donc c'est un artbook qui regorge de travaux personnels, de commandes. On a même Alexis Briclot qui a fait pas mal de travaux, des couvertures pour l'univers Marvel. Voilà, donc l'artbook Café Salé tome 5, donc c'est un collectif de 174 auteurs et c'est édité chez Café Salink, qui est un joint venture entre la communauté Café Salé et Ankama. Et donc du sport est en train de regarder une illustration à partir d'une photo de Clint Eastwood.
Ouais, parce qu'en plus il détaille sous chaque image, bon ben il y a le nom du dessinateur ou du groupe de graphistes, et il y a également la technique ou les techniques employées pour faire le dessin. C'est ça qui est très intéressant, justement pour les non professionnels, pour ceux qui sont pas du milieu, c'est de savoir à partir de quoi les auteurs ont travaillé. Alors il y a beaucoup de Photoshop, de digital bien sûr, hein, mais il y a également le travail à la main, aquarelle, acrylique, et toutes les techniques de dessin là c'est pas mal, hein,
franchement. En plus c'est bien parce que pour l'utilisation professionnelle, vous avez à la fin un annuaire avec les adresses mail et les sites perso de tous les graphistes, avec des qui référencent les pages dans lesquelles ils apparaissent. Donc voilà, c'est du bel ouvrage comme tu dis. Voilà, Café Salé, l'artbook tome 5. On enchaîne avec les comics.
On enchaîne d'abord avec un morceau de Ankama Music.
tu l'as retrouvé.
Ouais, j'ai trouvé. ça s'appelle Helipore, le groupe s'appelle Helipore. Le nom du disque, je l'ai plus, mais enfin bon, c'est pas d'importance pour l'instant. On écoute le morceau Signal to Jersey. Il est 12h58 déjà, c'est Radio Éphémère toujours et c'est toujours le supplément week-end. Alors du côté des comics, eh bien, on va commencer par le personnage emblématique de l'univers Marvel, le plus connu, celui qui est décliné sous toutes les façons pour tous les publics.
Et surtout en ce moment qu'on peut voir sur les sacs d'école des gamins.
Oh oui, mais non, mais bon, laisse tomber, hein, c'est incroyable, hein. Bon, c'est bien entendu Spider-Man. Et dans sa version kiosque, le numéro de juin est bien entendu sorti, hein, c'est le numéro 137. Et dans ce numéro, eh bien, déjà, eh bien, comme d'habitude, on a la continuité de ce qui se passe dans l'univers de Spider-Man depuis le Brand New Day, c'est-à-dire depuis le numéro 100 en édition française. Hein, à savoir bon bah la nouvelle donne et depuis quelques numéros ça fait quand même pratiquement une dizaine de numéros et eh bien les différents auteurs s'amusent à revisiter l'univers de Spidey en y ramenant les super vilains historiques on va dire de Spidey hein. On a vu Electro, on a vu Sandman, enfin pratiquement tout le monde. Bon, Kraven il est mort, on s'en fout, mais il y a quand même une histoire avec Kraven et la descendance de Kraven justement hein. Pratiquement tous hein, donc et là en ce moment bien c'est la deuxième partie du lézard de la saga avec le lézard.
Et ça nous change du bouffon, tiens.
Oui, non, mais le bouffon, c'est un des premiers super-vilains qui est revenu, en fait, mais sous une autre forme, à savoir la forme de menace. Hein, parce que, bon, bah, avec l'univers d'Harry Osborn et tout, pour avoir une continuité avec l'univers Marvel en général, après Civil War et après l'invasion des Skrulls, où c'est justement Norman Osborn qui a pris le pouvoir, qui a viré Tony Stark et qui a remplacé le Shield par le Hammer, hein, avec ses fameux Thunderbolts, eh bien il fallait quand même qu'il y ait une espèce de cohérence dans cet univers. Donc eh ben forcément il fallait un petit peu faire revenir le Bouffon Vert, enfin un espèce de succès d'année du Bouffon Vert, parce qu'en fait il était gris, hein, mais exactement la même chose. Et en fait ce n'était ni Norman ni Harry, mais c'était une autre femme dont je vous tairai le nom pour l'instant, parce que bon, bah, il arrivait des trucs pas très clairs, hein, et en plus l'histoire devrait en plus se développer, hein, parce que bon, bah, elle a un petit peu fricoté avec Norman, et donc il y a un enfant, il y a un petit bébé, enfin bon, ça ils y reviendraient certainement. Là pour l'instant, bon, on est toujours dans les histoires de reptiles, parce que c'est la deuxième partie et la partie finale de la saga entre guillemets, l'affrontement entre Kurt Connors, le laborantin, donc qui a eu quelques problèmes et donc il a cherché à se fabriquer un antidote parce que il se sentait devenir un petit peu reptile comme ça, quoi, suite à une erreur de laboratoire. Et bon, bah, le problème, c'est que là, dans cette deuxième partie, bah, il devient carrément super reptile, super lézard, à fond les manettes. Et en fait, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait un changement, parce que bon, bah, ça débute par... c'est une histoire qui s'appelle Métamorphose. Ça débute par un laboratoire complètement dévasté, et une Carly Cooper qui est là, peut-être future prochaine petite amie de Peter Parker, qui est par ailleurs dans la police scientifique. Il y a beaucoup d'allusions aux experts, à CSI et tout ça, sous forme de vanne bien entendu, et qui est en train de déblayer un petit peu ce labo dévasté où on a retrouvé 6 cadavres. Bon, alors déjà ça commence vachement bien, et ça va pas aller en s'arrangeant, parce que une fois que Peter Parker, ou plutôt Spider-Man, met la main sur ce lézard qui a décidé de dévaster pas mal de choses, eh bien on se rend compte que ça devient hyper dur, hyper glauque, parce que Kurt Connors a un fils, et ce fils, du fait de l'état de Kurt Connors, eh bien il a été mis un petit peu de côté, placé dans une famille d'accueil, enfin avec son assentiment bien entendu, hein, mais comme l'esprit animal du reptile reprend le dessus, il va chercher ses petits forcément, quoi, hein, c'est le premier truc. Et là, ça va pas forcément très bien se passer. Je vais pas vous dévoiler ce qui se passe, parce que bon, c'est quand même assez glauque. Et ça change un petit peu de l'univers traditionnel de Spidey, qui est quand même un univers, on va dire, bon enfant. Même si c'est des histoires qui sont réservées aux adultes, où il y a quand même la castagne, il y a quand même des types qui se font dégommer et tout. On ne voit généralement pas beaucoup de violence plein champ, comme ça, oui, en direct.
Et Peter Parker fait beaucoup de blagues aussi.
Peter Parker fait beaucoup de vannes, ça s'est entendu. Et lui, il a toujours ce leitmotiv, ça c'est depuis le début, je ne tue pas, hein, on ne tue pas, on enveloppe dans de la toile, on file ça aux flics, on assomme, on endort pendant un certain temps, mais on ne tue pas. Ça c'est son credo, son leitmotiv depuis que Spidey existe, de toute façon.
C'est pas le Punisher, quoi.
Non, c'est pas le Punisher, c'est pas Wolverine non plus. Donc, voilà, et là, je vous en dirai pas plus, mais enfin, c'est vraiment très très dur comme histoire, hein, faut bien le dire. Par contre, il faut quand même avoir un petit peu lu le numéro précédent, donc le numéro 136, hein, pour un petit peu comprendre. Bon, il y a toujours des résumés dans chacun de ces épisodes. Et il y a une autre petite histoire qui est en fait la conclusion d'une histoire qui était sortie le Spider-Man seul, c'est bien entendu sorti aux États-Unis dans la série Amazing Spider-Man, hein, donc le Spider-Man classique qui sortait tous les 15 jours, mais maintenant ils se sont rendus compte que ça devenait un petit peu difficile de sortir tous les 15 jours. Ils se sont dit, bon, on va sortir tous les 3 semaines, comme ça, on aura un petit peu plus de temps, on aura plus le temps de travailler les histoires et de se caler par rapport à la configuration Marvel, parce que bon, c'est un petit peu le bordel, faut bien reconnaître. Et donc, à côté de ça, il y a des histoires où on exploite plusieurs personnages venus de plusieurs galaxies. Et là, il y a un duo qui fait absolument mourir de rire et qui marche, qui fonctionne vachement bien depuis pas mal d'années, il faut le dire, c'est Spider-Man et Wolverine. Alors, ce sont les deux personnages en fait emblématiques de Marvel, il n'y a pas de problème, hein, au niveau des X-Men, c'est Wolverine qui est le plus connu, qui a vraiment flashé, il n'y a qu'à voir les films où
c'est le premier spin-off,
et puis même dans les X-Men, c'est vrai que c'est lui qui se dégage quand même un petit peu du lot. Et là, on a confié à Jason Aaron au scénario et à Adam Kubert au dessin. Adam, le fils de Joe, hein, bien entendu, le soin de nous concocter cette petite histoire. Alors, je vais avouer que cette histoire qui se prolonge, hein, dans les numéros de Spider-Man, parce que je crois que ça fait 3-4 numéros qu'on a cette histoire, donc en plusieurs épisodes, qu'au début j'étais un petit peu perplexe parce que c'était une histoire qui parle de voyage dans le temps, où on retrouve un Peter Parker dans la préhistoire, barbu, et qui se trouve à la tête d'une tribu d'hommes préhistoriques, donc dont il est le dieu.
Ça part en vrille un peu là.
Ça part complètement en vrille. Et d'un autre côté, on va parler de Wolverine, qui pareil vient foutre le why en disant non, t'as rien à foutre là, il faut que tu retournes dans le présent. Et puis bon, tu te dis bon, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça part complètement en vrille avec déjà deux super vilains qui arrivent, dont un grand méga balourd qui s'appelle le Tsar, et qui lui, que tu vois là un petit peu quoi, avec sa tronche quoi, et qui lui avec une grosse batte de baseball dégomme tout ce qui passe, et qui a également la possibilité de voyager dans le temps grâce à des diamants qui ont la possibilité de faire des voyages temporels. Et à côté de lui il y a un tout petit nabo comme ça quoi, mais qui lui également comme c'est le collègue du Tsar, eh bien voyage dans le temps, et lui il a acquis la connaissance des arts martiaux de tous les temps et même du futur. Alors tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, parce que bon en fait il s'amuse un petit peu à faire voyager Spider-Man et Wolverine. Alors à un moment dans un épisode et tout, ils sont confrontés à une entité un petit peu spéciale qui veut carrément les détruire. Tu crois que Wolverine va mourir parce qu'il est obligé d'utiliser un pistolet qui va tuer une planète, mais une planète vivante, s'il utilise ce pistolet, la personne qui tient ce pistolet doit mourir. Donc tu dis bon bah ça y est, Wolverine il y en a plus, c'est fini.
Ouais,
alors, mais tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, porte Nawak à fond les manettes et tout. Et en fait on arrive enfin dans ce numéro de juin à la conclusion, et tu te rends compte à la fin que Jason Aaron et Adam Kubert se sont vraiment bien fendu la gueule et qui se sont dit bon ok, on a les coudées franches de la part des éditeurs, on fait ce qu'on veut, on y va, on délire à fond les manettes, et du coup c'est assez bien réussi. Par contre le fait que ça a été édité, diffusé en plusieurs fois, chaque mois si tu veux, ça nuit un petit peu donc à la continuité. Parce que t'as du mal à te souvenir, il faut reprendre les anciens numéros pour te rappeler ce qui s'est vraiment passé avec tous ces voyages dans le temps. Donc on attend que ça sorte peut-être en une seule histoire, en un one shot quoi, parce que là ça va être vraiment très très marrant. Donc tout ça c'est dans ce numéro 137 de Spider-Man, le numéro de juin. Un juin également sorti, le Batman Universe, mais pas la suite, c'est-à-dire pas le numéro 7, le numéro 7 devrait sortir d'ici la fin du mois de juin, mais un hors-série, c'est le premier hors-série donc hein, depuis cette nouvelle série consacrée uniquement à Batman, les Batman Universe donc, qui faisait suite au DC Trinity où on avait Superman, Batman et donc cette fameuse saga qui terminait un petit peu l'histoire de Batman R.E.P. dont j'avais parlé, hein, R.I.P. Rest in Peace.
Ah oui, donc il est pas devenu E.P. alors.
Non. D'accord. Et le Batman Universe commence justement avec, je vous en avais parlé, les funérailles, l'enterrement de Batman. Batman est mort et tout. Et là, comme c'est le Why, Gotham est complètement dévasté, Arkham a été détruit, donc tous les prisonniers se sont évadés. On cherche tous à prendre. Et pour l'instant, c'est Black Mask qui tient le dessus du panier, qui est au-dessus du panier en ce qui concerne le contrôle de toutes les activités illégales à Gotham. Batman se fait remplacer par un de ses alter ego, à savoir Dick Grayson, hein, qui est le deuxième ou le troisième.
Je crois que c'est le premier Robin, non ?
C'est le premier Robin, donc, et il a un Robin avec lui. Hein. Ok, d'accord, bon, vous avez tout compris. Mais là, c'est un petit peu mis entre parenthèses, parce que l'histoire commence par un personnage qui, en fait, va usurper l'identité de Bruce Wayne et qui va se servir de cette identité pour essayer de se venger de ce que non pas Bruce Wayne, Batman lui a fait, mais Catwoman. Et c'est là que ça se consacre plus à Catwoman, du moins dans les premières histoires. Et c'est assez rigolo, ça dépote pas mal, c'est vraiment très très bien foutu. Par la suite, bien entendu, l'usurpateur se fait choper par Dick Grayson et Robin, donc Batman et Robin, et on va voir une histoire qui va plus se dérouler dans Gotham, donc c'est-à-dire dans les lieux habituels de Batman et tout ça. Mais par contre, eh bien, cette histoire est quand même située un petit peu en amont par rapport à la continuité de l'histoire du Batman qu'on suit dans les Batman Universe classiques. Et donc, se situe un petit peu en amont de la nouvelle histoire, là où on va soi-disant retrouver le vrai Batman. On va se rendre compte qu'il n'est pas mort. Hein.
Évidemment.
Non. Bah non, mais en fait, il n'est pas mort, on le sait. Hein, il a été envoyé dans la préhistoire, il est bloqué dans la préhistoire.
Lui aussi. Il est barbu lui aussi.
Par Darkseid à la fin de la bataille de Final Crisis. Donc justement, c'est pour ça que la nouvelle histoire qui a été instillée, la dernière histoire qui est instillée dans le dernier Batman Universe, le numéro 6, et qui est scénarisée par Grant Morrison et illustrée par Dave Stewart. On se demande ce qu'ils vont foutre en Angleterre et tout, et puis quand ils descendent dans un puits, puis qu'ils vont trouver des passages et tout, ben on se dit ah mais oui, voilà, c'est peut-être ça, c'est le passage qui va peut-être conduire à la préhistoire ou faire sortir quelqu'un de la préhistoire. Donc on va attendre la suite. En tout cas, hors série à conseiller, parce que pour une fois c'est pas trop glauque, c'est pas vraiment l'univers de Batman tel qu'on le connaît depuis
forcément
le début.
Ils ont fait du coup un crossover, il y a le glauque qui est parti chez Spider-Man et Batman a récupéré
ouais,
le mot
peut-être. En tout cas bon bah c'est pas mal, c'est assez sympa quoi, de toute façon quoi,
en tout cas la couverture est sympa en noir et blanc là, avec en peinture à peu près mais c'est carrément de l'aquarelle en fait.
Oui, c'est de l'aquarelle.
D'accord.
Ça vaut le coup hein, de toute façon quoi. C'est bon truc. Il y a les personnages emblématiques. Il y a le pingouin. Pingouin qui s'est fait dégommer, qui a failli mourir aussi. Enfin bon, ça va. C'est...
Et il est retrouvé à la préhistoire lui aussi ou pas ?
Non. Lui, il reste à Gotham. Il y a pas de problème. Hein. Donc fortement conseillé. Hein. C'est le Batman Universe hors série hein, qui est actuellement en kiosque. En kiosque pour finir pratiquement. Et puis bon, ça fera la jonction avec ton film. C'est dans la série les Marvel, les grandes sagas, toujours en kiosque, et ça c'est valable tous les 15 jours. Alors il faut savoir qu'à partir du 21 juin, c'est-à-dire dans un petit peu plus d'une semaine, ce sera le numéro 5 qui sera en vente. Là c'est le numéro 4 que j'ai en main, et il concerne les grandes sagas, une grande saga concernant les X-Men. Et en fait, ce sont des histoires complètes, hein, c'est en couverture souple. Ce sont des histoires complètes et qui nous racontent un arc qui ont été sortis, on va dire, depuis les années 2000. Donc une année, une période assez récente. Hein, c'est pas des vieux trucs et tout. S'il y avait le Thor qui était un tout petit peu daté, ou surtout plus au niveau du dessin, parce que la date d'édition était de 99. Mais là, celui-ci date de 2006 et a un petit rapport, on va dire, avec le film X-Men actuellement à l'affiche, tout simplement parce que bien on y remonte un petit peu à la genèse. Hein, on y apprend un petit peu plus. La jeunesse des X-Men, parce que bien c'est quand même l'histoire des X-Men originaux qui se font dégommer sur une île, on sait pas, ils ont disparu, le professeur Xavier a également disparu, et donc l'équipe actuelle des X-Men, ceux qu'on connaît, hein, Summers, Tornade, Jean Grey, Wolverine et tout ça, c'est-à-dire ceux qu'on connaît vraiment hein, depuis la première trilogie des X-Men, eh bien, vont essayer de découvrir ce qu'est devenu Xavier, et de par là même eh bien vont se rendre compte qu'il y avait une autre équipe et que certains personnages donc de cette équipe originelle soit ont été mis en rancard, ça on le savait, mais d'autres ont disparu, on ne sait pas s'ils sont morts, ils vont chercher à savoir de quelle manière ils ont disparu. Et ils vont également découvrir qu'il y avait d'autres membres qui auraient pu faire partie des X-Men, mais qui pas franchement des réservistes, mais enfin une équipe parallèle, on va dire, hein, des mutants parallèles.
C'est l'équipe de France A prime quoi.
Ouais. Et qui a joué quand même un assez grand rôle dans ce qui est arrivé à ces X-Men originaux et à ce qui est arrivé à cette planète et à ce qui arrive aux X-Men originaux, parce que aux X-Men actuels, parce que il y a un des personnages de cette équipe parallèle qui lui va foutre un why absolument incroyable, et parce qu'il veut se venger. Et pourquoi il veut se venger? Bah parce que il y a des parts d'ombre du côté du professeur Charles Xavier qui sont vraiment très importantes. Et ça ne concerne absolument pas son amitié avec Magneto. C'est vraiment ce qu'il a pu faire à la genèse pratiquement de son installation dans l'institut et de sa formation ou de la formation qu'il a faite de certains membres, de certains mutants. Et là, bon, bah, ok, c'est une histoire qui est quand même assez grave, hein, c'est assez trash quand même par moment. Et là, bah, on se rend compte que c'est pas Charles Xavier n'est pas un bisounours, non, il a vraiment des particularités. Et de temps en temps, il est vraiment très pragmatique et très opportuniste, on va dire. Et là, je pèse mes mots. Alors en plus, c'est scénarisé par Ed Brubaker, donc ok, c'est du lourd, c'est du costaud, et dessiné par Trevor Herzine. Alors moi j'aime assez quoi cette espèce de dessin. Bon bah c'est assez sombre quand même,
hein. Oui très actuel avec le bord des cases qui n'est pas blanc mais noir.
Voilà,
cases s'inscrivent dans un fond noir.
Tiens, ouais. Tu peux l'avoir aussi quoi. Donc c'est pareil et toujours donc avec chaque numéro de ces Marvel les grandes sagas, bien sûr, il y a le petit fascicule l'histoire à suivre qui concerne Marvel's, la bande dessinée qui était sortie il y a maintenant 15 ans au moins, scénarisée par Kurt Busiek et dessinée par Alex Ross. Bon, j'ai pas ramené parce que bon ben je sais pas. Et le nouveau qui vient de sortir, qui est actuellement en kiosque, c'est le numéro 5, donc c'est Wolverine dans une histoire qui l'oppose à Dent de Sabre. Histoire très linéaire, on va dire, hein, parce que bon, bah, l'essentiel des pages est bien consacré à cette histoire. Il y a bien entendu quelques d'autres personnages, dont un certain Romulus qui est actuellement à l'affiche dans la série Wolverine, qui est en kiosque actuellement.
Ça a un rapport avec Rome ou
Non. Bah, non, c'est juste lié un petit peu à son accoutrement, on va dire. Hein,
d'accord.
Tout simplement.
C'est quoi. Pas comme Thor,
non, pas du tout.
Qui est revenu à la vie, non.
Non, pas du tout. Et donc, c'est scénarisé également par cette histoire donc de Wolverine, scénarisée par Jeff Loeb et dessinée par Simone Bianchi qui fait également la couverture bien entendu. Et lui, bon, ok, hein, c'est une valeur confirmée, il y a pas de problème, hein, ouais. On connaît, donc ça marche aussi bien. Ça, c'est ce qui est en ce moment en kiosque avec le Thor qui va sortir donc en fin du mois de juin. Donc parce que je rappelle que ces Marvel Grand Saga ne sont en kiosque que pendant 15 jours et tous les 15 jours, hop. C'est un nouvel numéro qui sort et il y en a 10 à sortir comme ça.
Et après, si tu les rates, tu les rates, quoi.
Bah, si tu les rates, tu les rates. Tu vas dans ta librairie d'occasion préférée pour essayer de les retrouver, quoi. Mais à quel prix, je ne sais pas. Le prix de vente de ces trucs-là, c'est 8,95€. Donc, ça vaut quand même le jus. Hein,
ouais,
y a pas
parce
de problème.
Que quand même, c'est de bonne facture. Il y a un nombre de pages conséquent. Ce sont des one-shots. Donc, pas besoin de s'enquiller les précédents ou d'acheter ensuite les suivants. Non, c'est un bon investissement, je trouve.
Voilà, non, ça a été publié au départ dans des exemplaires à suivre, bien entendu. Mais là, c'est compilé dans un seul volume. Donc, c'est nettement plus agréable à suivre sans problème.
Alors, une question que je me pose, tu fais du ménage chez toi. Bon, je sais que tu t'es débarrassé de VHS récemment. Donc, ça te fait de l'espace dans ta librairie. Mais où tu les stocks? Parce que j'imagine en plus que tu me dis que dans les Spider-Man, si ça devient gore, il faut les mettre en hauteur par rapport à tes gamins. Comment tu...
Ah bah non, mais là où ils sont, il faut vraiment les trouver, quoi. Tu vois,
d'accord.
Parce qu'ils sont dans un endroit, tu croirais pas, quoi.
Sous l'oreiller.
Non, pas du tout. Dans des cartons, mais dans des cartons de couches, tu vois.
Ah d'accord, ok. Effectivement.
Il est déjà 13h18 et c'est la suite de ce supplément week-end sans Das Critch. Et je pense qu'on va passer au cinéma, mais là j'ai pas de chicha.
Ah, le jingle cinéma, c'est pas
jingle
grave.
Jingle cinéma, allez. Cinéma, cinéma,
cinéma,
chicha.
Bon, voilà. Allez, mais on reste dans l'X-Men avec cette fois-ci le film X-Men, le commencement. Un titre en VO qui claque un peu plus quand même parce que ça s'appelle X-Men First Class, puisque il faut savoir que X-Men sont dans un manoir, le manoir de Charles Xavier, qui est un institut pour mutants. La couverture, c'est un institut pour élèves particuliers, et donc First Class c'est première classe. Bon, là c'est le commencement, ils auraient pu The Beginning, mais non, c'est First Class, c'était mieux. Un film de Matthew Vaughn, donc à qui on doit déjà Layer Cake, mais surtout
Kick-Ass.
Le Kick-Ass, voilà. d'un film hommage au monde de super-héros, enfin qui était aussi adapté d'un comic qui avait été fait en parallèle. Et donc cette fois-ci le casting, nous avons James McAvoy dans le rôle de Charles Xavier, Michael Fassbender dans le rôle d'Eric Lencher dans le futur Magneto, Kevin Bacon qui est absolument monstrueux en bad guy, torsionnaire nazi, mutant, on a Rose Byrne de la série Damages.
Damages, ouais.
Voilà, qui joue le rôle de Moira. Si je vous dis Moira, ceux qui connaissent la série, la mythologie X-Men, vous savez très bien ce qu'elle va devenir. Nous avons également Oliver Platt, Michael Ironside qui fait un plus que second rôle, mais on est toujours très content de le voir dans des films. Et nous avons également deux caméos. Nous avons, bon, c'était sûr. Que nous allions avoir droit à un caméo avec Hugh Jackman.
Obligé.
Et nous avons également aussi la sublime Rebecca Romijn, qui n'est plus Stamos puisqu'elle a divorcé.
Oui, mais ça fait longtemps.
Voilà. Hein. Donc, dans leur rôle respectif, bien sûr. Alors, c'est marrant parce que dans les caméos, il y a justement, c'est la. Donc, nous assistons au commencement des X-Men qui ne s'appellent même pas les X-Men. On assiste au recrutement des mutants, puisqu'ils vont dire tiens, on va essayer de trouver les mutants, puisque Eric Lencher et Charles Xavier bossent pour une division spéciale de la CIA. Et donc, ils disent bon, d'accord, on recrute les mutants, mais c'est nous. Eric et moi qui recrutons les mutants et personne d'autre. Donc on les voit, ils commencent avec un espèce de prototype de Cérébro, c'est l'appareil qui amplifie les pouvoirs de télépathe de Xavier pour trouver les mutants dans le monde. Et donc il y a une scène qui est absolument indescriptible mais qui fait rire, te pisse dessus de rire, puisque c'est l'apparition de Wolverine. Et donc ils vont recruter différents mutants. Et je vous dis pas ce qui se passe, mais Wolverine va savoir les recevoir. Il faut pas le faire chier. Voilà. Donc ils vont pas demander à leur reste, ils vont se barrer. Voilà. Donc, que se passe-t-il dans X-Men le commencement? Ben, ça se passe dans les années 60. Le terroriste Sebastian Shaw, incarné par Kevin Bacon, veut déclencher la Troisième Guerre mondiale en montant les USA contre les Russes. Sauf que Shaw est un mutant. Il absorbe le pouvoir, il absorbe tout ce qu'on lui envoie dans la gueule, il le retourne contre l'agresseur. C'est un ancien torsionnaire nazi et il a plus ou moins contribué à façonner les pouvoirs d'un certain Eric Lencher dans un camp de concentration en Pologne. Alors si je vous dis camp de concentration en Pologne, si vous avez bien en tête le premier X-Men réalisé par Bryan Singer, vous souvenez de cette intro qui était super efficace avec le petit Eric Lencher qui s'est séparé de ses parents et qui développe pour la première fois ses pouvoirs en essayant d'arracher le portail en métal. Et dans l'intro de ce X-Men Le Commencement, nous avons au plan près cette scène qui est retournée. Et ensuite, nous avons la suite immédiate de cette scène. Donc, le fait que ce soit Bryan Singer qui soit à la production et au scénario également, il a co-écrit ce film. Donc, c'est pas innocent puisque c'est lui qui avait réalisé le premier film. Donc, il a dit allez-y, les gars, vous pouvez reprendre la scène.
Mais de toute façon, vu la crédibilité apportée à la première saga des X-Men au cinéma, était difficile de casser le moule. Oui. Et de se dire bon bah ok, on fait table rase et puis on va refaire notre genèse. C'était un petit peu difficile quand même parce que là je sais pas si les fans auraient vraiment apprécié, et même si le grand public qui a vu les premiers X-Men y aurait trouvé son compte.
Alors il y a quand même quelques incohérences hein, puisque bon c'est vrai que on a l'impression dans le premier film X-Men de Bryan Singer que certains mutants se rencontraient alors qu'ils ont passé leur enfance ensemble. Par exemple, là, on apprend que Charles Xavier, c'est quasiment comme un frère pour Mystique, puisqu'ils se sont rencontrés quand ils étaient tout petits. Donc on voit vraiment, c'est un retour aux sources, puisqu'on voit là les premiers pas de certains mutants. Dans l'Institut Xavier n'existe pas. On voit la rencontre entre le futur Magneto et le futur Professeur X. On retrouve vraiment l'esprit du premier X-Men, c'est de Singer, c'est-à-dire la rencontre, on va dire, dans un monde qui est quand même assez réaliste, avec la découverte de certains jeunes pour leur propre pouvoir, et justement la prise de conscience du monde qui ne connaît rien des mutants et qui va apprendre à savoir que ça existe. Alors, on retrouve bien sûr les mêmes archétypes que dans le premier film X-Men. Dans le premier film, c'était la novice, c'était Malicia, puisqu'on suivait ses premiers pas en compagne de Wolverine, mais c'était surtout Malicia. Et la femme fatale, c'était Mystique. Ben, cette fois-ci, les rôles sont inversés. C'est Mystique, et on la voit jeunette, donc c'est elle la novice. Et la femme fatale, je vous dis juste le nom, ça va vous faire fantasmer. Emma Frost.
Oui.
Alors Emma Frost, moi je la trouve assez efficace dans le film, mais moi j'aurais pas vu ce type d'actrice. Emma Frost, justement, j'aurais plus pensé à une nana plus voluptueuse comme Angelina Jolie. Là, ils ont pris une nana qui est beaucoup plus froide. C'est une blonde bien fichue, mais
comme Emma Frost.
Ouais, mais elle est pas assez pulpeuse, moi je trouve. Elle est pas. Alors qu'Emma Frost, c'est tout en rondeur. C'est une nana qui est c'est un triangle amoureux entre. Elle veut se faire Scott Summers, alors que lui il est avec Jean Grey. C'est une télépathe aussi. Mais là, c'est vrai que l'actrice, je la trouve. Alors, vous allez dire, c'est fait exprès, un peu froide. Mais j'aurais pas vu ce type d'actrice. Mais bon, sinon elle s'en sort très bien. Elle est un peu en retrait. Alors on a aussi les mêmes archétypes au niveau des méchants, puisque là Sébastien Shaw c'est le méchant, Kevin Bacon, et c'est lui qui invente le casque pour résister aux ondes des télépathes. Alors évidemment le casque, on sait sur la tête de qui il va arriver après, c'est le même casque, mais c'est vrai que le rôle de Magneto, le Magneto méchant, là on l'a pas trop dans le film, mais c'est tenu par un autre gars. Ça m'a rappelé vachement l'épisode 3 de Star Wars, La Revanche des Sith, puisqu'on voit dans le rôle de l'empereur Palpatine, et ben c'est Kevin Bacon. Dans le rôle du futur Anakin, on a Eric Lencher, et dans le rôle de Obi-Wan Kenobi, c'est Professeur Xavier. Donc on a à peu près le même truc, c'est, on pourrait dire l'origine du mal. Comment Eric Lencher va se muer en Magneto, si on pourrait dire ça, et puis il va exercer. Ben c'est totalement les enjeux, c'est les mêmes. Hein, Charles Xavier explique à Eric Lencher, bon, tu vois, pour développer ton pouvoir, tu peux être le plus grand, pas Jedi, mais mutant du monde, sauf qu'il faut que tu trouves le point. Le juste point entre la zénitude et la colère. Alors, ne t'aventure pas, jeune Padawan, sur le côté colérique. Non, tu n'arriveras à rien. La haine ne t'apportera rien. Tu sais, ça n'apportera pas la paix et tout. Et l'autre dit, non, la colère, je sens que je suis plus puissant avec et tout. Alors, c'est à peu près les mêmes enjeux. Ensuite, on a vraiment un affrontement, parce que le fil rouge du film, c'est vraiment l'amitié naissante entre Eric Lencher et le professeur Xavier. On voit, c'est un écorché vif, et Eric Lencher, il s'est fait tout seul, il a été torturé toute sa enfance, son adolescence, par le personnage de Kevin Bacon, qui était un tortionnaire nazi, donc il va le mettre avec des sangles. On voit dans des flashs des trucs assez violents où il est enchaîné, on fait des expériences sur lui pour développer son pouvoir. À côté de ça, parallèlement, il y a Charles Xavier. Il a grandi dans un manoir avec des polos un peu classe à col, là, les cols blancs. Il a fait des études. C'est plutôt un beau mec qui use de ça pour rencontrer des nanas et tout. Donc on voit vraiment l'ambivalence entre les deux. Donc ça, c'est quand même le truc intéressant du film. Ensuite, bon, évidemment, il y a la découverte des pouvoirs par les jeunes, avec la naissance de l'Institut Xavier, avec un festival de pouvoirs naissants. Hey, regarde, montre-moi ce que tu sais faire. Tiens-moi, regarde, je sais voler. Ah ouais, mais tu vois, si tu fais comme ça, tu vas pouvoir plus utiliser ton pouvoir. Ah ouais, c'est comme ça qu'on canalise le pouvoir. Ouais, non, mais attends, Hank McCoy, je suis inventeur et je vais te créer des costumes exprès pour dominer ton pouvoir et tout. Bon voilà, c'est la naissance des trucs. On a aussi les amouettes, forcément, parce que ce sont des ados. Voilà, donc le scénario, selon moi, est très très chargé. On aurait pu faire deux films facilement au lieu d'un. Moi, le principal défaut que je vois là-dedans, c'est qu'ils ont trop voulu coller en un seul film à l'ancienne trilogie, la trilogie qui se passe après. Pourquoi ne pas mettre en sous-entendu certaines évolutions, comme la naissance des noms, par exemple. À un moment donné, Eric et professeur Xavier, ils arrivent, ils rejoignent les jeunes, et les jeunes, ils disent « Ah ouais, vous savez pas, nous, on s'ennuie, alors on vous a trouvé des surnoms. Toi, tu seras Magneto, toi, tu seras professeur X. » Voilà, ils te balancent ça. Ok, bon, c'est pas très subtil. Tant qu'à faire, moi, je pense que ça aurait été aussi efficace de pas balancer des noms du tout. Et comme on sait qu'il y aura une suite, ben, entre-temps, ils se sont fait appeler comme ça. Par exemple, pourquoi ne pas mentionner du tout Magneto, par exemple. Ça aurait été... Bon, voilà, c'est un choix. Pour moi, trop de clins d'œil et de références lourdes, ça tue un peu le truc. On les voit arriver avec des gros sabots. Les producteurs essaient de faire des références et des clins d'œil aux fans pour dire hey, regardez, on pense à vous. Regardez dans le fond là, vous voyez pas que c'est le général Stryker qu'on voit dans X-Men 2. Quand Professeur X commence à regarder les mutants, on voit une petite fille noire avec des cheveux blancs, toute seule. On dit tiens, c'est la future Tornade. Bon voilà, c'est sympa, mais c'est peut-être pas utile. Matthew Vaughn est aux commandes, donc est-ce qu'il apporte vraiment une valeur ajoutée? Je pense que il a pas franchement les coups des franches non plus. Il illustre parfaitement un scénario qui est assez chargé et efficace. Par rapport au visuel débridé de Kick-Ass, c'est plutôt en retenue, puisque c'est pas n'importe quoi, c'est X-Men quand même, donc il faut quand même que ce soit assez soft et sobre. On peut voir.
Oui, c'est plus grand public. Hein.
Voilà, on peut voir quand même des inventivités quelque part dans l'entraînement des jeunes, avec justement des entraînements qui sont en split screen à la manière des années 60 et 70, ça c'est pas mal. Voilà, sinon il n'en fait pas des tonnes, il se met volontairement en retrait. C'est un film à voir en VO, indéniablement, puisque dans l'enquête que fait Eric Lenscher pour retrouver son tortionnaire, ça parle français puisqu'il va en Suisse. Ça parle bien sûr allemand, ça parle espagnol puisqu'il va essayer de retrouver en Argentine, donc il parle plusieurs langues. Du côté des Russes, ça parle russe aussi, donc évidemment les accents à la con des doubleurs français, bon, t'oublies, hein.
Ouais, ouais.
Voilà.
Mmh.
Donc voilà, donc c'est quand même pas mal. Tu t'en prends plein la tête pendant tout le film parce que c'est très chargé, ça va à 100 à l'heure. Tu as le contexte géopolitique puisque c'est l'époque de la crise des missiles de Cuba, donc tu as des images d'archives de Kennedy, tu as le Kremlin, tu as aussi une armada de décideurs militaires américains. Alors tu vois, il y a plein d'acteurs au second plan que tu connais tu connais la gueule et tout. C'est chargé, c'est vraiment un film, t'es pas lessivé en sortant, mais t'as l'impression que voilà, c'était pas du flan, c'était pas du vide, il y avait de la matière, quoi. Donc X-Men, le commencement, c'est quand même globalement très positif, qui fonctionne surtout pour la richesse et la richesse justement des personnages. Mais voilà, ils étaient pas obligés d'aller aussi vite et ils étaient pas obligés déjà de créer les clivages qu'on connaît dans la trilogie classique dès la fin de ce premier film, puisque à la fin ils se séparent et il y a même Charles Xavier qui finit en fauteuil roulant à la fin du premier film. Donc alors qu'au début il est bon, on aurait pu s'en passer, ils auraient pu le faire dans les suivants. Bon, ça c'est un peu dommage. Sinon voilà, ça reste quand même un film très tout à fait convenable et satisfaisant. Pour avoir vu un bout d'extrait d'interview des scénaristes, ils envisagent de faire arriver Cable dans le prochain épisode.
Oula.
Cable quand même, qui est le fils de Cyclope, qui vient du futur, d'après ce que je crois savoir.
Oui, donc oui.
Déjà, un film très ancré, géopolitique des années 60, avec un mec qui vient du futur. Ouais, curieux.
Ambitieux.
Voilà. Les mecs, voilà, ils ont pas peur, quoi. Voilà. Donc X-Men First Class, ou X-Men Le Commencement, c'est un film de Matthew Vaughn, et voilà, qui propose un éclairage sur la jeunesse des X-Men et sur toute cette mythologie qui est dans toutes les bonnes crèmeries, dans tous les cinémas, ouais, actuellement, ouais, en VF ou en VO.
En VF ou en VO, ouais. Il faut le souligner. Eh bien, il est 13h32, on a allègrement explosé le record, à mon avis.
Et on n'est que deux.
En n'étant que deux, hein. Avec la télé, alors tout d'abord, un petit retour en arrière. La semaine dernière, je vous avais parlé d'une nouvelle série de téléfilms diffusée sur France 3 le mardi soir et adaptée des romans de Boileau-Narcejac. Ce duo, alors c'est assez rare hein, quand même que ce soit deux auteurs qui écrivent un bouquin comme ça ensemble, hein, c'est très très rare on va dire. Hein. Les écrivains sont quand même des solitaires hein, généralement. Et là, bon, bah, ok, le Boileau-Narcejac, on connaît pour l'adaptation au cinéma des Diaboliques de Henri-Georges Clouzot, Sueur froide de Hitchcock. Hein, c'est bon, bah voilà, c'est pas n'importe qui.
Je savais pas que c'était adapté d'un
bouquin. Si. Et donc mardi dernier, ben c'était le premier téléfilm, donc, et vraiment à la vision, ben on peut dire que malgré, on va dire, quelques défauts qui sont, on va dire, récurrents hein, aux fictions françaises, le manque de moyens certainement qui induit justement quoi des prises, on va dire, et des jeux d'acteurs qui sont des fois un petit peu limites, surtout pour les seconds rôles. Pas pour les rôles principaux, hein, parce que les rôles principaux, là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le très très bon niveau, hein, avec en plus des gueules du cinéma, de la télé française qu'on aime bien, Frédéric Van Dendrich, des gens comme ça, qui vraiment, bon, ok, quand tu vois ces gens-là, tu dis, ah là, c'est quand même bon, il n'y a pas de problème, c'est du lourd, agréable, excellent, vraiment très très bon, hein, et l'ambiance est vraiment très très bien retranscrite, hein, du moins pour le premier téléfilm qui est passé mardi dernier. Ça continue mardi prochain, donc toujours sur France 3 à partir de 20h35. Ça s'appelle Les Amants Naufragés, hein, toujours d'après le livre de Boileau-Nerceja qui s'appelle Les Veufs. Là, ce sera, c'est réalisé par Jean-Christophe Delpias avec Robinson Stevenin dans le rôle principal, Simon Apkarian, alors bon, bah, qu'on a déjà vu il y a pas si longtemps que ça à la télé, au cinéma également, c'est bon, bah, également une bonne gueule, il y a pas de problème, c'est un mec qui joue bien, qui joue juste. Jennifer Becker et Horatio Malheil, Les Amants Naufragés, ce sera mardi prochain donc sur France 3 à 20h35. On a également une nouvelle grosse saga à sortir. Alors là, sur Orange Cinéchoc, bon, merci les gars, c'est sympa. Et ça a l'air vraiment d'être un truc assez monstrueux. C'est de l'Heroic Fantasy. Ça a été produit par HBO. Et alors là, attention, quoi. Première saison, 10 épisodes. Ça a coûté 45 millions de dollars. Hein, on a mis les moyens pour ce truc-là. C'est une adaptation de l'œuvre en 5 tomes de G.R.R. Martin, que je connaissais pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Ça a l'air d'être un auteur assez récent, hein, du moins. Et ça raconte l'histoire dans un monde un petit peu incertain où il n'y a pas de saison, où l'hiver peut durer 3 ans selon la région. Ça raconte un peu l'histoire de ce trône de fer qu'on essaye de s'approprier pour être le maître du monde, bien sûr. Alors c'est du moins 12, scènes violentes, scènes de sexe, ça c'est la caractéristique, on va dire, d'HBO, ouais, ouais. Hein, sans trop de problèmes. Là, le petit truc qui est pas mal, c'est que la première diffusion du premier épisode sur HBO, eh bien, elle date du 17 avril, là, qui est, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas deux mois. Ouais. Et Orange Cinéchoc vous propose la première diffusion de ce Trône de Fer demain à partir de 19h45 pour le premier épisode. Alors avec Sean Bean, avec Mark Addy, avec Lena Headey, on va dire que
quand même des acteurs qui sont habitués à l'univers fantasy, puisque Sean Bean était déjà
Seigneur des Anneaux,
Boromir, ouais, et Lena Headey qui avait joué dans 300.
Enfin, voilà,
entre autres, parce qu'elle a joué aussi dans Sarah Connor.
Mais... Donc, voilà, entre autres. Hein, donc on fait vraiment le parallèle avec le Seigneur des Anneaux, enfin bon, ce genre de truc là. De toute façon, et ça a l'air d'être quand même vraiment du lourd, hein. Y a pas de problème. Donc c'est sur Orange Cinéchoc à partir de demain soir, 19h45, le Trône de Fer.
Et puis un programme avec Lena Headey, forcément ça vaut le détour.
Oui, certainement. nouvelle série du jeudi soir sur TF1 à partir de jeudi prochain, donc 20h45. Out, R.I.S. Police Scientifique, Out, Julie Lescaut. Et c'est le retour de Corinne Touzet.
Oh non!
Mais qui va pas durer longtemps parce que bon, bah, elle a tourné quelques épisodes et puis après elle en a eu marre et s'est dit bon, je me casse. Donc ils sont en train de chercher une nouvelle interprète pour reprendre son rôle de cette série qui s'appelle Interpol. Interpol, alors avec Corinne Touzet donc pour ses premiers épisodes, Marc Grozzi et Bruno Polo, une histoire, les aventures d'une équipe de flics qui font partie d'Interpol et qui donc, au lieu d'enquêter uniquement sur le territoire français, bah, vont se déplacer un petit peu partir en Europe. C'est le but du jeu. À voir, peut-être, ça vaut peut-être le coup. Donc, jetez-y un œil, c'est jeudi prochain sur TF1 à 20h45, ça s'appelle Interpol. En ce qui concerne les films de la semaine, eh bien, on a parlé de bande dessinée pendant pratiquement toute cette émission, hein, donc, eh bien, on va regarder s'il y a des films à la télé cette semaine qui sont à l'origine des livres, mais sans images. D'accord, des vrais livres, ok. Avec ce soir sur Canal Jimmy, bien ça j'en ai déjà parlé. Hein, c'est une série de téléfilms qui s'appelle Meurtre à l'anglaise. Avec ça c'est la énième rediffusion de ce Meurtre à l'anglaise dont le titre est pour ce téléfilm Meurtre au collège. Ça date de 2002 avec dans le rôle titre parce que le titre original des bouquins de Elizabeth George qui est une américaine. Mais qui écrit des bouquins qui se passent en Angleterre, dans un climat vraiment très british, on va dire, vraiment. Hein, alors l'adaptation est vraiment très très réussie. Par contre, les bouquins sont assez pourris, faut le dire. Hein, c'est vraiment une anglaise qui, je me renseigne sur l'Angleterre, sur les us et coutumes et tout, quoi, mais j'y fous rarement les pieds. Le genre, quoi, tu vois,
ouais, d'accord.
Voilà, ok. Et le titre original de ces bouquins, c'est Inspector Linley Mystery, et, donc le rôle de l'inspecteur Linley tenu par Nathaniel Parker, qui est excellent, et Sharon Small à ses côtés aussi, y a rien à dire, hein. Ça, c'est vraiment très très bien. De toute façon, si vous avez jamais vu, jetez-y un coup d'œil, c'est vraiment une très très bonne série de téléfilms. Meurtre au collège, donc, dans la série Meurtre à l'anglais, c'est ce soir sur Canal Jimmy, en plus en version multilingue. Demain, sur Canal Plus Cinéma à 22h15, La Route, tiré du bouquin de Cormac McCarthy, donc là, bon, bah, ok, hein, avec Viggo Mortensen, Charlize Theron et Guy Pearce, paraît-il, l'adaptation est très fidèle au bouquin et aussi pratiquement aussi prenante que le bouquin.
Ouais, bah, c'est un film qui est implacable, hein, tu tires une balle dans la tête à la fin du
film. Oui, mais le livre aussi, c'est quelque chose, hein, c'est vraiment quelque chose. Alors, on a également demain soir sur Direct 8 à 20h40, Flic ou Voyou de Georges Lautner avec Belmondo, Marie Laforêt, Michel Glabru, tiré d'un bouquin de Michel Grisolia. On a également demain sur Ciné Plus Star à 20h40, Délivrance de John Boorman, tiré du bouquin de James Dickey, qui joue d'ailleurs le rôle du shérif dans Délivrance. C'est lui qui a écrit le bouquin de Délivrance. Donc, demain sur Ciné Plus Classique, Casbah, un film de John Berry en 1948 avec Tony Martin, Yvonne De Carlo, Peter Lorre, et tiré d'un bouquin d'un écrivain français, Henri de la Barthe, et dont c'est la troisième adaptation après celle de Julien Duvivier et celle de James Cromwell, donc John Cromwell, pardon. On a également sur TCM demain soir à 20h40, Un homme est passé de John Sturges en 55. C'est un western. Et son titre original, c'est Bad Day at Hondo. C'est le titre du bouquin de Howard Breslin. Et dans ce western, alors c'est le classique d'un type qui arrive dans un village et il va se faire choper par un manchot et il va se rendre compte tout le village est plus ou moins sous la coupe d'un caïd. C'est l'histoire assez classique. Par contre, il vaut pas mal parce que c'est un Sturges qui est pas dégueulasse, parce que Spencer Tracy est vraiment excellent, Robert Ryan aussi, et parce que il y a des seconds rôles comme Walter Brennan, Ernest Borgnine, Lee Marvin. En 1955, ils étaient assez jeunes et ça dépotait quand même pas mal. Lundi sur TV5 Monde à 21h, Mon oncle d'Amérique d'Alain René, qui est tiré d'un bouquin d'Henri Laborite. Ça, bon, bah, peu de gens le savaient, hein. Henri Laborite, c'est quand même le mec, le scientifique qui a inventé les barbituriques en 1948 ou 49, si je me rappelle bien. Mon oncle d'Amérique, donc, avec Depardieu, Nicole Garcia et Roger Pierre. Et dans le bouquin, d'ailleurs, c'est l'analyse des comportements des rats. Alors, c'est adapté, donc l'adaptation d'Alain René. Bon, bah, ok. Ah, sur TCM à 20h40, un grand classique du cinéma anglais, La loi du milieu de Michael Hodges avec Michael Caine, Ian Hendry, Britt Ekland, dont le titre original est Get Carter, le bouquin de Ted Lewis.
Qui a été remaké avec Stallone, d'ailleurs.
Voilà, qui a été remaké en 2000 par Stallone. Et dont le titre original du bouquin s'appelle Jack's Return Home. Et il faut dire que, à la suite, une année plus tard, après le film original en 71, est sorti un film de Blaxploitation, qui s'appelle également La loi du milieu, Get Carter, un film de George Armitage avec Bernie Casey et, bien entendu,
Pam Grier.
Ouais. Voilà. Donc, sur Polar, lundi, à 21h, Vivement Dimanche, c'est le dernier Truffaut en 83, et c'est tiré d'un bouquin de Charles Williams. Alors, le Vivement Dimanche, c'est avec Jean-Louis Trintignant, Fanny Ardant et Jean-Pierre Calfon, dont la caractéristique, c'est que c'est un film en noir et blanc. Ouais, en 83, donc, et extrait d'un bouquin de Charles Williams, qui était un auteur assez prolifique quand même, mais qui a fait vraiment pratiquement que des bons bouquins, et dont les adaptations au cinéma sont assez nombreuses quand même. Hotspot de Dennis Hopper avec
Don Johnson
était également tiré d'un bouquin de Charles Williams. Le Calme Blanc également, Calme, un petit peu plus loin, Fantasia chez les Ploucs de Gérard Pires avec Lino Ventura, avec Jean Yann, qui est vraiment un film jubilatoire. vraiment, parce que l'adaptation est mi-rigolote, enfin elle est vraiment très très fidèle, et c'est assez rigolo de voir que des artistes français, enfin c'est un film français mais qui a été tourné comme si c'était un western, tu vois.
D'accord.
Alors bon, c'est assez rigolo avec tous les attributs du western, hein, c'est-à-dire la ferme déserte dans le désert, les voitures américaines et tout, c'est pas mal, c'est bien foutu. Il y a également Les Félins, hein, un film de René Clément avec la fameuse rencontre entre Alain Delon et Jane Fonda, qui est également tiré d'un bouquin de Charles Williams. Les Félins qu'on peut voir d'ailleurs mercredi prochain à 22h25 sur Ciné Plus Classique. Mardi sur France 4, The Beach de Danny Boyle, c'est tiré d'un bouquin de Alex Garland. Et mardi prochain sur Ciné Plus Club, on a également Lost Highway de David Lynch, tiré d'un bouquin de Barry Gifford. Alors Barry Gifford, il est connu parce que lui aussi, il a écrit pas mal de bouquins. Traduit en français dans la collection Rivage d'ailleurs, il a fait Perdita Durango.
Ah, je savais même pas que c'était lui.
Si, si, qui est la préquelle de Sailor and Lula, en fait, hein, dans les bouquins, en fait, parce que bon, bah, il faut dire que Sailor et Lula, ça a quand même été un petit peu travaillé, on va dire, et c'est lui qui fait également, qui a écrit également City of Ghosts, un film un peu moins connu, mais qui a été réalisé et interprété par Matt Dillon.
Ah,
eh ouais. Mercredi sur TCM, un seul film, Les Ruelles du Malheur, un film de Nicolas Ray en 48, tiré du bouquin de Willard Motley, Knock on Any Door, avec John Derek et Humphrey Bogart. Jeudi, et ce sera le dernier, jeudi, vendredi, il y a que dalle, mais par contre, c'est Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, tiré d'un bouquin de l'Autrichien Arthur Schnitzler, qui avait déjà adapté au cinéma plusieurs fois, dont le fameux La Ronde en 1950 de Max Ophuls. Il faut dire que Kubrick, de toute façon, pratiquement l'ensemble de sa filmographie, c'est l'adaptation de bouquins. Arthur C. Clarke pour 2001 de l'Odyssée de l'espace, Anthony Burgess pour Orange Mécanique, Stephen King pour Shining, Gustav Ashford pour Full Metal Jacket, William Thackeray, ça c'est un auteur du 19e siècle qui est né en 1811-1812, et très un classique, hein. C'est vraiment un classique qui est étudié en littérature anglaise par tous les lycéens et collégiens anglais, pour Barry Lyndon, et bien entendu Nabokov pour Lolita. Lolita, ouais. Donc Kubrick, lui, il n'a pas été cherché bien loin. Bon, il a quand même fait quelques scénarios originaux, hein, bien sûr, hein, surtout dans ses premiers films. Doctor Strangelove, par exemple, L'Ultime Razzia, où c'est lui qui signe également le scénario. Les dialogues sont de Jim Thompson, d'ailleurs. Jim Thompson, le mec qui a écrit The Killer Inside Me.
Mm-hmm.
Eh oui, qui fait les dialogues donc du premier, on va dire, on peut l'appeler comme ça. C'est le premier film de Stanley Kubrick.
Et d'ailleurs, ça a tort un peu les idées reçues de certains prétendus amateurs de cinéma qui ont l'esprit très à l'étroit, qui pensent souvent qu'on ne peut pas faire un film personnel en adaptant un bouquin. Et bien Kubrick, pendant toute sa carrière, a montré que le contraire pouvait être possible.
Bah exactement, de toute façon, ça c'est clair. D'ailleurs, ce qu'on écoute en ce moment, c'est un morceau qui est très très long, hein, tiré de la bande originale du film Shaft, qui est également une adaptation d'un polar, dont je me rappelle pas le nom du bonhomme. Shaft, la musique de Isaac Hayes, avec ce morceau donc qui s'appelle Do Your Thing, un morceau de 19 minutes dont le solo de guitare fait 11 minutes. Il est 13h47, c'est toujours Radio Éphémère 89.1 MHz, et on va bientôt clore ces débats de supplément week-end. Mais Thomas, peux-tu nous faire le résumé pour ceux qui ont repris l'émission en cours de route?
Mais oui, bien sûr, c'était une émission spéciale bande dessinée avec du sport aux manettes, mais sans Death Reach. Nous avions une interview de Jérémy L'Absolu, des créatures nippones, du tigre, des belles images, le retour des Skrulls, et oui, nous l'avons mentionné, Skrulls, du bouffon vert qui est gris du coup, Spider-Man et un Batman barbu à la préhistoire contre un artiste martial du futur, un Batman qui n'est pas devenu hippie, des super-héros en couche et en ado, et des livres sans images.
et non d'un changement de réalisateur. Ils ont manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr sans tirer ni accent, supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et en continu sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, qu'est-ce que nous avons dans le prochain épisode? Je crois que nous avons en fait le sujet audio que nous avions enregistré au TGS Wanami sur les bento. Nous allons plutôt le passer pendant la Japan Expo de cet été. Donc dans le prochain épisode, je ne sais pas ce qu'il y aura.
Ah oui, mais je crois que justement notre cher ami Xavier est en ce moment en voyage
à Paris,
du côté de l'univers du bento, entre autres.
L'univers du bento, oui, ah bon, ah bon.
Oui, du côté de magasin spécialisé bento.
D'accord. Eh ben très bien, mais il ramènera des sujets, j'espère, plutôt que la coulée douce au pays de la Tour Eiffel. Voilà, sinon on sait pas ce qu'il y aura la semaine prochaine, ce sera une surprise.
Comme d'habitude, pratiquement. Voilà. Allez Thomas, à la semaine prochaine.
Eh ben je te laisse pour parler de l'actualité sportive.
Ouais, ça va être vite fait. Hein. Du sport, eh bien, juste pour vous annoncer bien deux événements qui ont lieu pratiquement ici aujourd'hui, enfin dans la ville de Toulouse, aujourd'hui ou demain. Tout d'abord, ce soir, c'est au Stade des Minimes, c'est du rugby à 13 et c'est le Toulouse Olympique 13 qui reçoit l'équipe anglaise de Sheffield à partir de 19h, donc au Stade Arnonet aux Minimes. Ou alors un petit peu de baseball. Le baseball, ça se passe aux Argoulets, bien sûr. Sur le terrain du Stade Toulousain Baseball, anciennement les Tigers. On pourra suivre également l'équipe élite senior, les Tigers Toulousains. Mais ce sera demain aux Argoulets, hein, à partir de midi et 15h. Ça se joue toujours en deux manches. Et demain, ils affrontent les Templiers de Sénart. Mais il y a également les juniors du Stade Toulousain qui jouent aujourd'hui à partir de 15h. C'est également aux Argoulets. Première manche donc aujourd'hui à partir de 15h pour les juniors de Toulouse face à l'Aiguevin. Et demain, bien, ça se passe à l'Aiguevin pour une place en National 2. Mais ça se passera à l'Aiguevin, donc pour les matchs de demain, 11h du matin tout d'abord, demain matin, et 14h. Et on va lui couper la chic à monsieur Isaac Hayes avec un petit morceau de Charlot pour aller jusqu'à 14h. Ça vous dit? Allez.